le bon, le culte et le navrant.
Pour survivre à une guerre, de devenir la guerre.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Je t'aime.
Je sais.
On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul.
Il nous faudrait un plus gros bateau, non?
Un tout petit cuisinier.
Appelez-moi Plisken.
J'ai gagné.
Nom de Dieu.
Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Tout slasher, slashant, slashé.
Non, c'est tout slasher, slashant, slashé.
Ouais, presque.
Non, ouais,
C'est tout slasher, sachant casser.
Non, c'est pas... Non, ah ben... tout slasher, chassant, chassé, chassant, chassé. Parce qu'il chasse.
Tout chasseur, tout classeur. Non, mais faut y aller d'un seul coup. Tout chasseur, chassant, chercher.
Tout slasher, slashant. Non, mais bon, de toute façon, il est imprononçable ce titre d'épisode aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai, franchement, quel est l'idiot qui nous a sorti un titre pareil. Franchement, belle trouvaille.
Hein. C'est toi.
Ah bon?
Ah bon?
Ouais. Bah, en même temps, c'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est même plutôt vraiment bien, en fait. Bon, après, c'est vrai que c'est plutôt un titre de presse écrite, tu vois.
Oui, alors qu'on fait un podcast. Bon, enfin, de toute façon, ce qui compte, c'est pas trop le titre, c'est quand même c'est ce qu'on va mettre dedans, hein, sans vouloir te t'offenser. Et là, franchement, on va être servi. On va avoir affaire à du déglingo de légende, de la sociale de classe internationale, c'est moi qui te le dis, du maniaque psychotique de légende et aussi d'opérette. Enfin, vous verrez, parce que vous commencez à nous connaître. On aime bien le meilleur, mais aussi le moins bon.
Eh ouais, et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça va se lâcher à tout va. Ça va tailler, planter, découper, à base de couteau, l'origine du genre, quoi. Mais rassurez-vous, il y aura aussi du meurtre par machette, par strangulation sur animal sans défense, du meurtre par halter, du meurtre avec zigouigoui pour faire tenir les poids sur les machines de muscu, avec des flèches, avec du fil de téléphone, avec de la hache.
Ouais, surtout, on va voir comment certains arrivent à bien nous faire marrer avec leurs moyens dérisoires, alors que certains autres, avec des moyens tout aussi dérisoires, arrivent très bien à nous terrifier, à nous mettre les chocottes.
Bref, c'est l'épisode tout slasher, sachant slasher. Oh, ça y est, je l'ai dit.
Tu l'as super bien dit, alors du coup, on va pouvoir commencer tout de suite le bal de l'horreur avec notre première rubrique, Autour du culte.
Autour du culte.
Il n'a peur, rustique.
Et on commence tout de suite avec notre première rubrique autour du culte. Alors, je vous rappelle un petit peu le principe du podcast. Vous savez qu'on traite un genre. Dans chaque genre, on aborde le film culte à la base du genre, dans la rubrique autour du culte. Puis on aborde après les copies qui ont réussi l'exercice de pérenniser la légende dans copie culte. On parle après des films ou du film qui nous divise un petit peu dans ça se disculte. Et puis, on aborde la rubrique des nanars, des navets, qui sont passés à côté du genre, avec une petite nouveauté cette fois-ci.
Ouais.
On peut le dire. On a décidé de changer de nom pour cette rubrique, puisque jusqu'à présent ça s'appelait Navet plus jamais. Et finalement ça nous gênait un petit peu.
Ouais, nous on est des partisans quand même de l'orthodoxie. On faisait une entorse à la règle.
Et alors qu'on est des puristes.
Exactement.
Voilà. Et donc Navet plus jamais s'appellera désormais Ridiculte.
Et c'est bien mieux.
On peut même s'applaudir. Enfin, moi d'ailleurs, je pense qu'on peut s'applaudir. Voilà, bravo. Alors on commence tout de suite avec le film culte. Le film culte pour nous, fondateur du genre, même si pas tout à fait, on pourra le dire.
Non, mais c'est pas forcément le film fondateur à chaque fois. C'est celui qui a marqué le genre de son empreinte.
Et celui-ci a particulièrement marqué le genre de son empreinte, puisqu'on va vous parler d'Halloween, de Big John, de John Carpenter. Alors Halloween, c'est un film qui sort en 1978, avec un scénario de John Carpenter et Debra Hill, qui est aussi coproductrice et qui était la femme, la compagne de John Carpenter à l'époque. Halloween, c'est un budget ridicule pour l'époque de $300 027, très exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, petit film, a été écrit en 3 semaines, une semaine de préparation, 21 petits jours de tournage et une semaine de post-prod pour pourtant accoucher d'un film qui est une légende.
Au bas mot, une légende.
Au bas mot. Alors, Halloween a rapporté dans le monde plus de 70 millions de dollars. Pour un budget donc dérisoire. Il faut savoir que John Carpenter, puisque personne ne croyait au film, a souhaité juste uniquement être payé pour la musique qu'il compose, 11 000 dollars. Il a touché 10% des recettes du film, c'est quand même 5 millions et demi de dollars au final dans la poche du grand John. Donc on peut dire qu'il a réussi son pari.
Ça a été le film peut-être le plus rentable pour lui aussi. En fait.
Sûrement. Et puis c'est le film qui lui a permis après d'être pris au sérieux et d'enfin pouvoir réaliser les films qu'il avait vraiment envie de faire, hein, comme Fog, comme New York 97, comme La Chose évidemment.
Parce qu'en fait, quand il fait ce film, il n'a que 2 films à son compteur. Hein.
Asso, qui a fait parler de lui quand même déjà beaucoup.
Et
Dark Star.
Et on reste quand même sur des films assez confidentiel.
Oui, assez confidentiel. Même si dans Asso, on sentait déjà le talent dans la réalisation de John, le style épuré, mais efficace, etc. Mais bon, il transforme l'essai avec Halloween. Et pour finir sur la présentation du film, Halloween, au niveau du casting, nous avons Jamie Lee Curtis, qui est prise pour ce film parce qu'elle est la fille quand même du très grand Tony Curtis, qu'on ne présente plus, et de Janet Leigh, qui est l'actrice très célèbre qu'on voit dans Psychose, donc il y a quand même une petite filiation de genre, puisqu'elle se fait, comme vous le savez, dans Psychose, tuée dans cette mythique scène de la douche, par Anthony Hopkins. Et puis, on retrouve un vétéran, on va dire.
Ah ben, on retrouve un mec, c'est le pivot, en fait, ce rôle-là, pour Donald Pleasence, en fait, parce que, derrière, il va complètement basculer dans le film de genre.
C'est vrai qu'après, il va être utilisé exclusivement pour ça. Oui. Il retournera d'ailleurs avec Carpenter. Donald Pleasence, qui se fait payer quand même 22 000 dollars, vous voyez, un peu le cachet. On avait pensé avant lui au très grand Christopher Lee, qui a décliné le rôle, qui a dit le regretter par la suite, et puis au très fait. Très grand aussi.
Il a même dit que c'était la plus grosse connerie de sa carrière.
Ouais, ça c'est vrai que ça l'a été, enfin sûrement. Et un acteur aussi tout aussi majuscule, qui était Peter Cushing. Peter Cushing, star de la Hammer, acteur de genre, mais qui était trop cher parce qu'il venait de tourner dans Star Wars. Que du coup, il prenait largement plus que les 22 000 petits dollars de l'ami Donald Pleasence. Alors, est-ce que... Ah oui, et puis alors, dernière petite chose, avant que tu nous fasses le pitch.
D'accord.
L'acteur qui joue The Shape, qui joue Michael Mayer, le bogeyman, c'est Nick Castle. Nick Castle qui, en fait, traînait sur le tournage pour accompagner un copain qui a été choisi pour faire le truc, et qui réalisera par la suite un film qui a marqué les années 80 dans son genre, qui est Starfighter, et qui a été scénariste de Hook, le film de Steven Spielberg.
Et qui a aussi joué dans pas mal de Carpenter, hein, dont New York 97, Los Angeles 2013 et Fog. L'autre Michael Myers, parce qu'il y en avait deux, c'était Tony Moran.
Tout à fait.
Qui a joué dans pas mal d'Halloween aussi.
Et tu vas pouvoir maintenant nous faire le pitch.
Avec plaisir. Et vous allez voir, ça va être assez concis. Parce qu'en fait, le pitch d'un slasher, ça va vite. Alors, comment vous pitchez ce monument? On a un enfant qui commet un crime atroce sur sa sœur. Plus tard, devenu adulte, il s'échappe de l'hôpital psychiatrique où il est retenu nu. Et il débarque de nouveau à Haddonfield pour recommencer à tuer. Nous sommes la veille d'Halloween, le soir où tout le monde joue à se faire peur. Mais ce soir, c'est la terreur qui s'installe à Haddonfield. Tueur mythique et mutique, Michael Myers fera de nombreuses victimes pendant que son psychiatre et la police lui courront après. Arriveront-ils à temps pour sauver la jeune et innocente Laurie Strode? C'est ce qu'on va voir tout de suite.
Alors, ce qui est fascinant vraiment avec Halloween, déjà pour commencer, c'est probablement la réalisation que pose notre ami John Carpenter, parce que à bien des égards, on peut le dire, c'est loin d'être un film de tâcheron, c'est un film d'un grand artiste.
Oui, indéniablement, il pose là quelque chose d'assez génial, mais il est toujours... J'ai beaucoup de mal à être objectif quand je parle de Carpenter, parce que je trouve que le mec est quand même assez génial, et ce qui est fantastique, c'est que ce mec-là, moins il a d'argent, plus il a d'idées pour faire passer ses intentions, son message, ce qu'il a envie de dire. Il trouve les solutions, et certaines sont d'une efficacité redoutable.
C'est clair, c'est clair. Il a toujours été restreint la plupart du temps dans ses budgets, et c'est souvent ses plus petits budgets qui sont ses meilleurs films. Curieusement, quand il a des budgets plus gros, c'est pas les films qui lui réussissent le mieux. Intéressant d'entrer dès la première scène dans Halloween, alors à plusieurs titres. Alors déjà, c'est un plan séquence dont on pourra parler. Mais dans ce plan séquence sont posées, finalement, toutes les règles de base du slasher. Puisque, on va le rappeler, mais si on doit donner une définition du slasher, il y a trois règles de base, hein, c'est que déjà on a un tueur qui est la plupart du temps masqué. Alors dans cette première scène, le tueur certes est un enfant, mais on remarquera qu'il est déjà masqué. Et d'ailleurs, on est déjà en vue subjective, on en reparlera par la suite. Deuxième règle du slasher, c'est que la plupart du temps, le tueur tue avec une arme blanche, arme à la symbolique phallique, qui a tendance à représenter le sexe d'un homme, voire une pénétration. Enfin bref, dans cette première scène, nous avons déjà l'arme blanche.
Exactement.
Puis, troisième règle, c'est qu'en général, on a une victime, ça peut être un homme et une femme, mais la plupart du temps, ce sont quelque part des gens moralement en faute. Des gens qui sont en train de s'adonner à
des fornicateurs,
à des plaisirs coupables, hein. Soit ils sont alcooliques au dernier degré, soit souvent.
C'est vrai, parce qu'on dit souvent ce sont des jeunes qui sont en train de faire l'amour, mais pas que. Hein. Il y a aussi l'alcool,
la drogue, enfin bref.
Tous ceux qui sortent du droit chemin.
Exactement, sont punis par une sorte d'ange purificateur, d'ange maléfique, qui va être le boogeyman. Et dans cette première scène, il se trouve qu'on découvre à la fin que c'est un enfant qui tue sa sœur qui est en train de forniquer avec son copain, mais néanmoins, tous les ingrédients sont déjà posés, même si c'est un enfant. Le costume, les comportements déviants, l'arme blanche, voilà. Et ça va poser les règles de base du genre. Même si on peut dire que, c'est vrai, avant Halloween, il y a eu quelques films quand même déjà qui ont un petit peu abordé le sujet. Il y a notamment Black Christmas, qui reprend la vue subjective, qui reprend un certain nombre de codes. Il y a eu Massacre à la tronçonneuse dans un autre genre. Mais avec le Carpenter, c'est vraiment ces règles-là qui s'affirment pour longtemps, si on peut dire. Et donc, dans cette première scène, c'est au-delà de ce qu'on vient de dire, donc c'est un plan séquence. Ce plan séquence, il a été tourné dans la vraie histoire, il a été tourné tout à la fin du tournage. Et en vrai, c'est pas un vrai plan séquence. C'est là que Carpenter est encore plus fort, c'est qu'il est cuté à trois reprises, on s'en rend même pas compte.
Et on a
l'impression que c'est dans la continuité. Voilà, donc ça nous présente bien le personnage, l'enjeu, l'endroit où le film va se passer d'ailleurs par la suite.
Ouais. Et d'ailleurs, il est assez malin aussi, Carpenter, parce que on le voit peu, en fait, Michael Myers.
Oui.
On le voit très peu. Même au moment où, justement, ce psychiatre va le chercher à son hôpital et il arrive à s'échapper, on l'entreaperçoit à peine. Par contre, c'est lui, c'est Donald Pleasence qui nous l'introduit véritablement. Et qui, justement, en le faisant de cette manière-là, fait vraiment monter la pression avant même qu'on sache à quoi il ressemble. Je vous passe un petit extrait pour que vous voyez un petit peu comment il en parle.
Avez-vous des instructions particulières ?
Comprenez bien que la chose est un monstre, et la chose ne doit pas être sous-estimée.
Vous ne pas considérer la chose comme un homme ?
Je ne savais pas ce que vous dites.
Votre compassion force le respect, docteur.
Et donc, à travers cet extrait, c'est vrai que c'est Donald Pleasence qui nous le caractérise, qui nous donne l'enjeu autour du personnage, qui nous explique un petit peu en quoi il est une âme damnée, en quoi il est dangereux. Il y a une scène aussi très après l'introduction, qui pour moi est peut-être même un hommage à Zombie, hein, d'ailleurs presque de Romero, parce que quand Pleasence arrive avec dans la voiture devant l'asile, il se trouve que les internés de l'asile se sont échappés, on voit des silhouettes blanches un peu hagardes comme ça dans la nuit, et donc ça fait un peu penser à Zombie. Bref, on comprend que Michael Myers s'est échappé, mais c'est vrai que Michael Myers, là où Carpenter est très fort, et c'est pas pour rien qu'on l'a surnommé The Shape, hein, la silhouette, c'est que c'est juste une silhouette, quoi. C'est une forme qui observe tout. Et depuis le début du film, dès la première scène, on est en vue subjective, on nous place, on est un peu dans une posture malsaine, on est en lui presque, parce qu'on voit ce qu'il voit.
Bah, parfois on est en lui, et parfois on est derrière son épaule.
Lui. Ouais. Exactement. Mais pour moi, c'est le même ordre d'idée, tu vois. En fait, on l'accompagne. On le voit, voit ce qu'il va faire. Et c'est souvent en plus des plans larges.
Oui.
Et on voit une amorce d'épaule.
Ouais. Et tu te dis, mon Dieu, il va leur tomber dessus. Et toi, t'es juste derrière et tu peux rien faire.
T'as envie de leur dire, mais attention, il est là, partez vite, etc. Mais on peut rien faire. On est que des témoins presque infirmes de la situation. On ne peut rien faire, évidemment. Et ça, dans la mise en scène, c'est quand même
très 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 puissant parce que ça ça le rend encore plus effrayant ce personnage.
Mais d'ailleurs c'était une des premières fois, enfin en tout cas on était au début de la Steadicam et il a utilisé la Steadicam John Carpenter, et c'est ce qui permet, vous savez, c'est une caméra assez légère qui permet justement une espèce d'impression de
fluidité,
parce qu'on est quasi caméra à l'épaule, donc ça bouge un peu mais on est dans l'action. Avec cette caméra, elle est très immersive comparée à une caméra posée, plus éloignée, etc. Là, il nous amène vraiment dans l'action.
Dans la réelle aussi, il y a un autre élément, moi, qui m'impressionne beaucoup, c'est que entre Laurie Strode, donc le personnage incarné par Jamie Lee Curtis, et Michael Mayer, c'est toujours pratiquement du champ contre champ. C'est-à-dire que elle regarde, elle le voit de loin, et donc on voit Michael Mayer, et lui, inversement, regarde la situation de son point de vue. Et donc, on voit que Carpenter, dans la réelle, il oppose vraiment pendant tout le film les deux personnages, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent dans l'affrontement final. C'est comme s'il se... Il nous les présente comme opposés et comme des gens qui, à un moment donné, vont forcément se rencontrer.
C'est pas tout simplement parce que c'est une autre règle du slasher. Laurie Strode est la némésis de Michael Myers, puisque elle est celle qui, parmi toutes les autres, reste prude.
Tout à fait, parce qu'on peut, ce qu'on disait tout à l'heure, dans le slasher, il y a une règle, c'est que l'arme blanche symbolise un peu, c'est le symbole phallique. Et y a toujours une vierge, en fait, dans les films d'horreur, dans les slashers, pardon. Et c'est cette vierge-là qui, en général, vient à bout, tout le temps d'ailleurs, vient à bout du méchant. On peut même dire que, quelque part, on retourne l'élément de pénétrant, si je puis dire, puisque c'est l'arme blanche dont le tueur se sert pour pénétrer ses victimes, qui se retournent contre lui, puisque la plupart du temps, l'héroïne, à son tour, pénètre avec toutes sortes d'ustensiles, en fonction des films, le méchant, et donc retourne finalement son arme contre lui, et c'est elle qui le viole à la fin. Il y a des gens qui ont écrit il y a plein de bouquins sur le sens caché des slashers, et parmi les sens cachés, il y a celui-là. Celui du passage à l'âge adulte et celui du passage de la vierge
à la femme sexuellement active, ouais.
Exactement.
Moi, j'ai bloqué, alors tu me diras si toi t'as bloqué sur le même plan que moi, mais il est pourtant assez anecdotique, mais pour moi, il est assez révélateur de tout le talent de Carpenter, parce que on montre rien, et le mec arrive quand même à faire monter la pression d'un cran. C'est justement avant le premier meurtre, le meurtre de la première babysitter, où il est là à l'observer à l'extérieur, et le chien de la maison se met à aboyer, sort, et on a un plan qui est un plan à 20 balles, hein. Il ne vaut rien, ce plan, c'est-à-dire à réaliser, on est juste sur les jambes de Michael Myers, on voit ses cuisses, on voit le chien, les pattes arrière du chien, qui sont redressées, on se doute qu'il vient de lui sauter à la gorge, et on entend juste le gémissement du chien et les pattes qui redescendent, et on comprend, et la musique évidemment qui arrive là, et on a tout compris, et on n'a rien vu, et on est quand même en train de se dire « Putain, mais c'est quoi ce mec ?»
En un plan comme ça, il nous le rend encore plus inquiétant, parce qu'on prend conscience de sa puissance.
Exactement.
En fait, ce pauvre gros quand même berger allemand ne fait pas un pli face à Michael Mayer, qui semble le liquider facilement, s'en broncher tranquillement. Donc on sent que c'est une vraie menace qu'il a une grosse puissance en lui. Il y a un autre élément, moi, qui me...
Il est même pas perçu comme un humain.
D'ailleurs,
moi, je passe juste un extrait de... pas juste un extrait, on pourra en parler après, mais justement de comment il est décrit par son psy.
La première fois que je l'ai vu, il y a 15 ans de cela, on m'a dit que cet enfant n'avait plus ni raison, ni conscience, qu'il ne réagissait plus aux choses les plus rudimentaires comme la vie ou la mort, le bien et le mal, le vrai et le faux. J'ai vu cet enfant de 6 ans, au visage mort, pâle, où ne se peignait aucune émotion, avec d'immenses yeux noirs, les yeux du malin. J'ai passé 8 ans à vouloir trouver le contact, et puis 7 autres années à lutter pour qu'on ne le relâche pas, car j'avais la certitude que ce qui habitait cet enfant, c'était purement et simplement le mal.
Et donc, dans cette description, on voit bien que le docteur nous parle plutôt d'un être maléfique. Hein. On n'est pas, pas sur un humain. Hein.
Il l'appelle la chose.
Ouais, exactement.
Il ne veut même pas lui donner le titre d'humain.
Et ça, après, c'est vrai que ça caractérise le personnage, puisque au-delà d'être juste une silhouette, parce que c'est vrai qu'il a une tenue de garagiste, il a un masque dont on pourra reparler, voilà, et il n'existe pas, il n'existe qu'à travers cette silhouette. Et il y a quelque chose qui glace le sang dans le personnage de Michael Mayer. Depuis le début,
Il
ne dit pas un mot, mais on sent que c'est un enfant. C'est un enfant, en fait, qui ne comprend pas le monde extérieur. Et ça, on le comprend finalement. Enfin, en tout cas, on le voit dès le début dans le plan séquence, parce que c'est un enfant et il tue déjà sa sœur quand il est enfant. Mais finalement, 15 ans plus tard, c'est le même enfant dans un corps de géant. Et il y a une scène en particulier, moi, que je trouve glaçante et qui dit ça. C'est quand il tue
le copain, il commence déjà par le soulever de terre d'une seule main. Voilà, l'étrangler
tranquillement,
et ensuite effectivement il le cloue à la porte du placard, et il reste à le regarder en bougeant sa tête de droite à gauche, et comme s'il essayait de comprendre pourquoi ce corps ne s'agite plus devant lui,
et on sent l'incompréhension. On voit que Michael Mayer, c'est un enfant qui découvre le monde. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il vient de faire, de ce que ça signifie, que ce corps ne bouge plus face à lui? Bon, en tout cas, il est mort, mais lui, et il est encore plus flippant, en fait, quand il fait ça, parce qu'on comprend qu'il n'a, mais c'est ce que dit Loomis dans l'extrait qu'on a entendu, c'est qu'il n'a aucune conscience, ni du bien, ni du mal, de ce qu'il fait. Il est mu par cette envie, ce besoin de tuer ou de se venger, on ne sait pas trop.
Et ce qui participe aussi de son inhumanité, c'est que même quand il est frappé, il n'y a pas un son qui s'échappe de sa bouche. C'est-à-dire que quand par exemple Jamie Lee Curtis lui enfonce quand même une aiguille à tricoter aux trois quarts dans la gorge, il s'effondre, il se relève, il enlève l'aiguille, il n'a pas dit un mot.
Non, c'est une puissance inamovible, Michael Mayer. On a l'impression que rien ne peut l'attendre, alors si ce n'est Laurie Strode à la fin du film. Et par tous ces éléments-là, c'est vraiment le boogeyman par excellence que personne ne peut arrêter, finalement. Personne ne peut arrêter ce type, et on le sait, et on ne peut qu'assister
au meurtre des
autres.
Et d'ailleurs, le final se conclut là-dessus, avec Laurie Strode qui croit l'avoir tué et qui dit aux enfants « J'ai tué le croque-mitaine », alors que cette scène est fabuleuse. Elle est là, elle console effectivement les enfants qui sont face à elle, et elle dit « J'ai tué le croque-mitaine, ça y est, j'ai tué le croque-mitaine », alors qu'elle est dos aux escaliers et qu'on le voit monter vers elle, et les enfants se mettent à hurler tellement ils sont terrifiés.
Oui, et à partir de là, c'est vrai qu'on comprend quand même qu'il va sûrement revenir souvent, et qu'il ne sera pas si facile que ça à trucider. Il y a deux éléments intéressants aussi une scène intéressante dans la mise en scène aussi, qui est celle où, dans son rôle de voyeur un petit peu, Michael Mayer suit le petit frère en voiture pendant un moment, là, derrière la grille de la voiture, on voit, il le suit, on entend sa respiration sous le masque, ça aussi c'est assez impressionnant. Et je trouve que ce qui est très réussi aussi, c'est l'utilisation de la ville dans laquelle se passe finalement l'action, puisque on est juste dans une petite ville urbaine des États-Unis, des petites maisons, des petites rues, enfin tout ça est très mignon, très rassurant normalement. Et Carpenter choisit pas de faire ça dans un lieu clos.
Il pourrait le faire, le faire à New York, mais non. Et d'ailleurs, il y a plein de slasheurs qui se passent dans des petites villes.
Ou dans des endroits écartés du monde et autres. Là, on est en pleine ville. Et puis, la ville, en fait, on les voit continuellement prendre des rues, tourner dans des rues, tout ça. Ça devient un petit peu un labyrinthe, quand même, qui va finir par se retourner contre eux. Et les écrase un peu, cette ville. Elle les écrase. Et ça rend, finalement, Michael Mayer encore plus perturbant, parce qu'on se dit qu'il arrive à commettre tous ces crimes-là dans une ville où, normalement, ça ne devrait même pas se passer, tant il y a de monde.
Mais nous sommes la veille d'Halloween.
Et
donc, évidemment, les comportements déviants sont un peu moins remarqués. Et derrière, moi, je noterai une autre scène que j'ai trouvée hallucinante, qui est effectivement la découverte du corps de sa copine. Quand Laurie rentre dans la maison, monte et découvre en fait le corps d'une de ses copines sur le lit avec la pierre tombale de Judith Myers posée sur le lit. Et là, on la voit, toute la scène est fantastique, elle te prend aux tripes, quoi. Tu la vois reculer et du coup, elle s'approche d'un placard et c'est son mec qui pend du coup, le mec de la nana qui a été tué, qui se met à pendre parce qu'il a été lui aussi tué. Elle est scotchée, elle recule, elle trébuche, elle s'accroche à un placard qui s'ouvre où elle a une autre de ses copines qui est pliée en quatre dedans. Et là, elle sort en courant et elle va à l'autre bout du palier et elle se pose complètement choquée, traumatisée face à une porte ouverte. On est dans le noir et petit à petit, on voit le visage, on ne voit que le masque de Michael Myers qui apparaît et qui la regarde alors qu'elle est en larmes, en pleurs, et il est juste derrière elle, c'est terrifiant. Ouais.
C'est vrai qu'il est comme ça, un peu en clair-obscur, on voit que le masque, et tout. Il y a pas mal de séquences comme ça, hein. C'est juste sa silhouette, son reflet qu'on voit, c'est extrêmement bien fait, enfin, c'est très stylisé, c'est extrêmement bien fait, ça renforce le côté vraiment terrifiant du personnage. Petite anecdote juste sur le masque, parce qu'on disait tout à l'heure, le masque, mais alors, une anecdote que tout le monde connaît, mais on va quand même la dire pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais le masque, c'est juste le visage de William Shatner, le célèbre, le interprète du Capitaine Kirk de Star Trek, acheté dans un magasin de farce et attrape, et puis un petit peu travaillé, un petit peu usé pour en faire le visage sans expression de Michael Myers. Donc, mine de rien, William Shatner, c'est le Capitaine Kirk, mais c'est aussi le visage de Michael Myers. C'est quand même un énorme comédien, William, et on le salue d'ailleurs s'il nous écoute.
Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a... Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'on... On a fait le tour, non. Parce que...
Oui, non, alors on a pas mal...
Parce que quand même, le mec croyait qu'il tournait juste un film alors qu'il a lancé une légende, il a renouvelé et formaté un genre, et il a surtout donné naissance à une formidable licence, parce qu'il y en a eu combien des Halloween derrière, et puis tous ceux qui vont lui emboîter le pas par la suite, dont certains dont on va parler...
Lancer la carrière de Jamie Lee Curtis, Halloween, je crois que Jamie Lee Curtis est en train d'en produire encore un, me semble-t-il, pour 2022. Combien de remakes, les remakes de Rob Zombie, combien tous les Halloween de la première franchise, voilà, c'est plus d'une dizaine de films. Ce sont, alors en général, hein, c'est des films qui fonctionnent bien, le premier est celui qui a le mieux marché, mais ça a lancé le genre, parce que les précédents qu'il y a eu n'ont pas lancé le genre en tant que tel, Halloween l'a fait.
Donc, c'était vraiment un sous-genre très peu exploité, très très fermé en termes d'auditoire, hein. Et lui, il a véritablement démocratisé le truc, hein.
Voilà, donc pour ça, merci John, un grand merci au Big John, et puis on va maintenant aborder notre deuxième rubrique, Copiculte.
Copiculte.
Je m'appelle Julius, je suis ton frère jumeau.
Deuxième rubrique de notre épisode slasher du jour, Copiculte. Et cette fois-ci, dans Copiculte, nous allons vous parler d'un film qui s'intitule Vendredi 13.
Ah bon ? Je connais pas, jamais entendu parler.
Voilà, bon, il y a eu très peu de films après de ce genre. C'est normal que tu ne connaisses pas.
Ah, d'accord.
Alors c'est pour ça qu'on va l'expliquer un petit peu. En vrai, Vendredi 13, c'est le premier d'une saga longue comme le bras.
Il y en a eu plus de 13.
Voilà.
Presque.
Avec des remakes, des
reboots,
films qui partent dans tous les sens, des reboots, etc. Et donc, au départ, Vendredi 13, c'est un film donc, de 1980, de Sean Cunningham. Sean Cunningham, qui est un acteur sans le sou et qui a envie un petit peu de surfer, tout simplement, sur la vague d'Halloween. Et il a été producteur, quand même, il faut le dire, de La Dernière Maison sur la Gauche. Donc, il est un petit peu dans le genre, mais bon, il a une passe difficile et il se dit comment essayer de gagner un petit peu d'argent avec ça, puisque Halloween a bien fonctionné. Alors... c'est un film qui est doté quand même d'un budget de 500 000 dollars, donc quand même 200 000 à peu près de plus qu'Halloween, et qui fera 40 millions de dollars de recettes. Donc
il a réussi son coup.
Bonne opération quand même pour Sean Cunningham. Un film dans lequel on retrouve des acteurs inconnus qui le sont restés pour la plupart.
Oui, quand même, faut le dire. Hein. Voilà. Il n'y a pas eu de grande percée. Il y a que Kevin Bacon, hein,
exactement,
on va le dire.
Hein, exactement.
Les autres sont quand même d'illustres inconnus. Hein.
Qui se souvient de Betsy Palmer? Pas moi.
Voilà. Elle a fait quelques films dans les années 50-60, et en fait, elle a eu presque 15 ans d'interruption dans sa carrière, et elle la reprend avec Vendredi 13. C'est la fameuse Pamela Voorhees.
Et elle ne la reprendra pas après sa carrière,
non,
d'ailleurs.
Non.
Adrian King, qui se souvient d'Adrian King? Pas moi.
Et ben, en fait, c'est Alice Hardy, et elle a joué dans deux suites. C'est la survivante, mais elle a fait que ça. Hein. Si elle avait fait R avant, et La Fièvre du Samedi Soir.
quand même.
Mais elle n'avait pas des rôles clés. Hein.
Et qui se souvient de Robbie Morgan voilà, et pas moi.
Pas moi non plus.
Voilà. Ni, en revanche, on se souvient quand même de Kevin Bacon, Kevin qui fait sa première apparition à l'écran. Kevin Bacon, qui alors jouera après dans Footloose. Et puis dans toute une série de films, un acteur qui joue encore beaucoup, qui est soit premier rôle, soit second rôle, enfin on l'a vu dans tellement de choses.
Ouais, il en a fait plein, il a fait du Apollo 13, du Hollow Man, du Tremors, du JFK.
C'est vrai que tu fais bien de le rappeler, il a joué dans le premier Tremors, quand même, qui est aussi une franchise qui continue encore aujourd'hui.
Exactement.
De Direct to DVD en Direct to DVD, mais qui continue. Alors, Vendredi 13, de quoi ça parle? Fais-nous le pitch.
Avec plaisir. C'est assez simple en fait. 1957, un enfant laissé sans surveillance se noie au camp de Crystal Lake. 1958, deux moniteurs qui folâtrent y sont tués. 20 ans plus tard, un jeune homme ambitieux et plein d'espoir veut relancer le camp. Il embauche des moniteurs, mais ce sont surtout les meurtres qui vont être relancés par l'arrivée des monos sur le camp.
Donc, Vendredi 13, merci pour ce brillant pitch, Carlito. Vendredi 13, qu'est-ce que c'est finalement, si ce n'est une ressucée basique de ce qui a fait le succès d'Halloween?
Oui, clairement. Ils ont pris les recettes, ils ont appliqué la même recette, avec un peu plus d'argent, dans un coin reculé. C'est vrai qu'on n'est pas dans la ville.
Tout à fait.
On est dans un coin reculé.
Il y a quelques petites variantes, mais l'ambition, c'est vraiment de surfer sur Halloween, de faire un pur film d'exploitation, avec quand même cette différence, c'est que donc Sean Cunningham, le réalisateur, considère qu'il peut le rendre un petit peu plus explicite, voilà, qu'il peut aller plus loin dans le gore, parce que Halloween, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit tout à l'heure, mais Halloween, il y a très peu de sang dans Halloween. On est dans la subjectivité, il y a des meurtres, mais...
Meurtres, il y a de la violence, il y a des meurtres... féroce, mais il n'y a pas d'hémoglobine à outrance.
Voilà, peu d'hémoglobine. Et c'est là-dessus que Vendredi 13 veut jouer, hein, voilà, être un peu plus spectaculaire, être un petit peu plus en mode train fantôme, si on peut dire, avec un peu plus d'horreur qu'Halloween. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est une duplication totale de ce qui se passe dans Halloween, puisque il y a un prologue comme dans Halloween où, où deux monos se font trucider. Et puis après, on suit un groupe de jeunes qui se feront aussi trucider les uns après les autres.
Il y a quand même un enfant qui est lié à un drame
tout à fait qui est au cœur de l'intrigue
et un drame qui lui aussi s'est passé plusieurs dizaines d'années auparavant.
Voilà, donc exactement la même structure. Dans les différences encore, on pourra dire que le lieu, voilà, dans Halloween, on le disait tout à l'heure, ça se passe dans une ville à ciel ouvert, une ville rassurante au premier abord. Là, c'est vrai que Cunningham choisit d'exporter l'action dans un camp de vacances un peu isolé, donc le fameux camp de Crystal Lake, qui deviendra donc mythique par la suite. Et donc Crystal Lake, c'est isolé à travers la campagne, à travers les bois. On ne peut pas vraiment s'en échapper. Donc, c'est en plein air, mais c'est une prison en plein air. Ce qu'apprendront à leur dépens les protagonistes de l'histoire.
Autre point de ressemblance, là aussi, on a, et vous allez le voir d'ailleurs, on va vous passer l'extrait tout de suite, mais on a là aussi quelqu'un qui vous fait la petite introduction qui va bien. Hein. Alors, autant dans Halloween, c'était Donald Pleasance en voiture avec l'infirmière, et bien là, c'est un gentil routier qui accepte de prendre la mono qui se rend sur le camp et qui va lui expliquer tout ce qui se passe. On vous montre ça tout de suite.
Dites-moi tout et qu'on n'en parle plus.
Tirez-vous. Repartez tout de suite.
Repartir? Mais je vois pas pourquoi.
La malédiction est sur cette colonie.
Oh, ça c'est la meilleure. Alors vous aussi, vous croyez à ces sornettes comme le demeuré du village?
Peut-être bien. Christy vous a parlé des deux monos assassinés en 1958? Et du gamin noyé en 57? Et des feux de forêt? On n'a jamais su comment ils avaient pris. En 62, ils ont voulu rouvrir. Mais paraît que l'eau était polluée. Christy finira comme ces vieux. Fou et fauché comme les blés. Ça va faire un an et demi qu'il s'escrime à rafistoler. Ça en fait du fric. Au moins 25 000 dollars. Et pour des prunes. Si j'ai un conseil à vous donner, barrez-vous.
Voilà, donc ce monsieur est très clair et pose bien le cadre, hein, on va dire. Alors bien sûr, les futurs monos ne se doutent de rien, mais en tous les cas, nous, en tant que spectateurs, on sait très bien ce qui va leur arriver, on est prévenus. Voilà, c'est posé, c'est carré, c'est clair. on enfonce aussi le clou, c'est le cas de le dire, sur d'autres règles, hein, puisque...
Voilà, voilà, c'est plus que le clou, tu vas voir. Hein.
Et bien, bien fortement le clou, dans tout ce qu'on peut l'enfoncer, voilà, tout ce qui est déviant est puni. Voilà, ouais. Alors, l'alcool, le comportement, l'alcoolique sera puni, le forniqueur sera puni, voilà, tous ces comportements-là sont sévèrement punis par le boogeyman du film. Donc on retrouve complètement ce qu'a posé Carpenter dans Halloween.
Il y a juste peut-être un petit peu plus de sens à ça, c'est que ce type de comportement a généré de l'inattention et a occasionné la noyade de l'enfant.
Alors c'est vrai.
Dans le précédent, c'était dans Halloween, c'est plus irrationnel. Ouais. C'est comme ça.
Dans Halloween, on ne sait pas trop pourquoi finalement il tue. Alors est-ce qu'il était jaloux de sa sœur Michael Mayer? On ne peut pas savoir. Mais le boogeyman a une raison, au moins une justification un peu crédible, voilà, de ses actes par la suite. Alors, Vendredi 13, c'est clairement pas un grand film, en fait. On en parle dans Copy Cult, parce que au niveau de la réalisation, c'est un peu l'opposé de Carpenter, c'est plat, c'est mal réalisé, c'est mal joué. Enfin, voilà,
c'est même s'il y a quand même du meurtre à répétition, ça reste mou,
oui,
en fait.
C'est...
Moi, j'ai été très étonné, hein, d'ailleurs, j'en parlais à Tom avant qu'on commence à enregistrer, mais c'est vrai que moi, je suis un fan absolu de Carpenter. Halloween, je le connais par cœur. Vendredi 13, je connais moins bien la licence, mais j'avais dans la tête un plutôt assez bon souvenir de ce premier opus. Et en fait, quand je l'ai revu, et c'est vrai que quand tu le revois à la suite d'Halloween, c'est dur.
Ça souffre pas trop la comparaison. Ah, alors même si moi, c'est vrai que j'ai toujours été un amateur de la série Vendredi 13, je connais toutes les répliques de Jason Voorhees par cœur.
Hein, ouais, c'est normal, moi celle de Michael Myers.
C'est assez facile. Mais finalement, on est plus fan de la franchise parce qu'à chaque fois, on se dit, tiens, que va-t-il bien pouvoir inventer pour trucider les monos du coin? Parce que c'est un peu le seul intérêt du film, finalement.
C'est ça.
Et le seul intérêt de Vendredi 13, comme on le disait, ils vont beaucoup plus loin dans l'hémoglobine et dans les meurtres. Et donc, à chaque fois, la marque de fabrique de la saga, ce sera l'inventivité du boogeyman.
D'ailleurs, c'est un des points intéressants et novateurs que pose ce film. Parce que dans le film de Carpenter, dans Halloween, Michael Myers il tue, mais à la limite la façon dont il tue on s'en fout, on sait que ça va arriver,
c'est
on sait que ça va être terrible,
comment ça va arriver, ouais, qui est intéressant,
exactement, et derrière de savoir si c'est avec un harpon, avec un couteau ou avec une scie électrique, peu importe en fait, mais là ça devient effectivement une espèce de jeu, c'est le premier je pense slasher où on se dit mais comment il va le prochain,
voilà,
comment il va y passer,
c'est ça, c'est ce qui fait progresser l'intrigue, et c'est le seul intérêt, c'est de dire comment il va bien pouvoir s'y prendre. Donc ça apporte une petite nouveauté, et effectivement cette surenchère dans les meurtres, la façon de tuer, tous les slashers qui suivront reprendront la recette et iront beaucoup plus loin que Carpenter dans ce traitement visuel là. Un autre point peut-être qu'ajoute Vendredi 13, même si c'est presque sans le vouloir, c'est l'atmosphère, en fait. C'est que Vendredi 13, c'est un film qui avait des moyens, mais pas tant que ça, qui est réalisé par quelqu'un qui est pas un bon réalisateur. Et donc, il y a une atmosphère vraiment poisseuse, vraiment crade dans le traitement de l'image. C'est sale. Et ça rajoute un petit peu au côté presque, alors, artisanal du film, mais au côté impressionnant du film, parce que tout est sale. Voilà. Et ces personnages ont l'impression qu'ils vont pas s'en sortir de cette saleté-là, quelque part. Et ce sera le cas.
Elle leur colle un peu à la peau, c'est vrai.
Complètement. Donc ça, c'est un peu la marque de fabrique de Vendredi 13. Et c'est vrai que c'est pas voulu du tout, mais c'est ce qui caractérise le film, ce côté naturel, un peu âpre, un peu crade, un peu sale. Et d'ailleurs, Sean Cunningham, quand on l'interroge aujourd'hui, il est très clair, hein, sur les velléités artistiques du film, c'est-à-dire que pour lui, il n'y en a aucune, puisque je cite, il dit « Ce film, c'était de la plomberie, les personnages sont sans épaisseur, et celui qui aurait l'ambition de traiter Vendredi 13 d'une œuvre était vraiment un prétentieux. Ma seule ambition, c'était de faire du business. » Voilà, je pense qu'il est très clair avec ça. Mais pourtant,
c'est... Au moins, il est honnête.
Et c'est une franchise qui a fait du business, on le disait tout à l'heure, des millions de dollars de recettes. Et il est à ce niveau-là, il a transformé l'essai. Il y a quand même un autre élément, mais qui est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, qui caractérise Vendredi 13, lié au meurtre, ce sont les effets spéciaux et les trucages. Et ça, il est clair que le rôle qu'a eu Tom Savini dans ce film est prépondérant, parce que Le seul intérêt de Vendredi 13, c'est la façon dont le tueur tue ouais. Les gens. Et donc, c'est très spectaculaire. Et ça, effectivement, c'est Tom Savini, quand même, qui était déjà connu parce qu'il a fait, il avait fait les effets spéciaux de zombies, de Romero. Mais Tom Savini, il déploie, comme souvent, des trésors d'ingéniosité pour faire des meurtres assez incroyables. À ce titre, moi, il y en a un qui m'a toujours marqué. Le meurtre de Kevin Bacon.
un trauma d'enfance.
Ah, c'est un trauma d'enfance pour moi. J'ai assisté à cette scène alors que je n'aurais pas dû assister à cette scène, je pense. Ça m'a traumatisé pendant des années. On rappelle la scène, Kevin Bacon vient de faire l'amour avec sa compagne. Alors déjà, effectivement, il est fautif au plus haut point, hein, parce que c'est pas bien de faire ça.
Mais en plus, il en rajoute. Il fume un joint, ce con.
Et en plus, il fume un joint. Ah ouais. le double effet, comportement déviant. Et donc, il est tranquillement allongé sur son lit. Il fume sa cigarette tranquillou, enfin son joint tranquillou, et là, qu'est-ce qui se passe ? On ne se rend pas compte, mais il est progressivement transpercé depuis sous le lit par une lame qui va finir par sortir de son poitrail et qui va progressivement le ciseler dans l'horizontalité. Inutile de vous dire qu'il doit souffrir un truc de dingue, Kevin. Mais il dit rien parce que je pense qu'il est aussi surpris que nous. Et ça, c'est au niveau des effets spéciaux, c'est une prouesse pour l'époque. Il n'y avait pas d'image de synthèse, on le rappelle. Tout ça est fait avec... Avec des ficelles.
Attends, tu sais comment c'est fait ?
Alors, avec raconte, mais effectivement, c'est assez intéressant.
Un faux coup. Ouais. C'est-à-dire que il était Kevin Bacon, il était sous le lit, on avait fait un trou, il y avait sa tête qui dépassait, il l'a penché en arrière et on avait mis au-dessus un mannequin avec un faux coup et des poches de sang. Et en fait, il n'avait qu'un faux coup ou deux, je crois. Enfin, il ne pouvait pas se louper. Et donc, à tel point que quand il a transpercé, ça marchait pas. Et je crois qu'il a introduit un tuyau dedans et il a injecté l'hémoglobine comme ça pour que ça pisse un peu plus fort.
Non, mais c'est remarquable parce que même aujourd'hui, quand on voit cette scène, on est impressionné et on se demande, on essaie de trouver à chaque fois comment ça a pu être fait. Et franchement, même avec un passage en haute def du film, on n'arrive pas à le voir. Donc, Tom Savini, big up à Tom Savini, qui aura après continué une carrière incroyable, qui continue d'ailleurs. Qui aura fait d'ailleurs son propre remake de zombies à la fin des années 80 et qui incarne, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'inoubliable Sex Machine dans Une Nuit en Enfer. C'est lui qui fait le personnage. Il est fantastique, Tom Savini. Donc voilà, Vendredi 13, c'est aussi grâce à lui en fait qu'on s'en souvient aujourd'hui. Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Peut-être qu'on peut parler du twist.
Non, oui, quand même.
Du double twist de la fin. Voilà.
Et je pense que celle qui en parle le mieux, c'est encore Maman Boris.
Cette colonie de malheur. Et Steve s'est entêté, il n'aurait jamais dû rouvrir avec les choses effroyables qui se sont passées ici. Ça a commencé par la noyade d'un petit garçon. Et l'année d'après, deux moniteurs ont été tués. Des inconscients qui n'ont jamais fait attention à rien. Ils faisaient l'amour pendant que le petit s'est noyé. Il s'appelait Jackie. Je travaillais ici quand c'est arrivé. C'est moi qui préparais les repas. J'étais cuisinière. Il aurait fallu surveiller Jackie en permanence. Un enfant qui ne sait pas nager, il faut s'en occuper. Nous pouvons partir. Allons.
Je crois qu'il vaudrait mieux attendre Monsieur Christie.
Ça n'est pas nécessaire.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Oui, mon Jackie. Je suis là. Oui, Jackie était mon fils unique. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire.
Voilà, donc Maman Worries qui a une sévère envie de se venger hein, de tous ces jeunes dépravés par la faute desquels son fils, le jeune Jason, s'est donc noyé dans le Crystal Lake.
C'est vrai que c'est assez intéressant parce que, d'abord, le tueur est une femme. Et pour l'époque, c'était quand même assez rare.
C'est vrai.
Mais moi, il y a un truc qui me fait quand même marrer, c'est qu'elle a quand même buté une dizaine de monos sans aucun problème. Voilà. Et elle tombe sur une des plus chétives des filles. Et il va lui falloir une demi-heure. Et elle va se faire assommer au moins 3 ou 4 fois. Et tu te dis, mais comment t'es arrivé à buter tous les autres du premier coup aussi efficacement? Et comment tu peux te louper aussi royalement sur cette dernière. C'est pas possible.
C'est vrai qu'elle lui donne du fil à retordre. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que son fils Jason sera aussi revanchard par la suite. Parce que finalement, on a fait mal à sa maman et ça, il a pas aimé.
Ah bon, on lui a fait mal, je veux dire, à coup de tisonnier, à coup de crosse de fusil dans la gueule, à coup de poêle, carrément, on y allait, à coup de poêle, quoi, sur maman Brise.
Elle est résistante, hein. Elle est quand même résistante.
Donc, mais voilà. La fille aussi, hein, la fille qui se défend aussi. Hein. Je peux dire qu'elle tient à la vie, celle-là. Hein.
D'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que. Enfin, qui est marrant. C'est pas marrant, mais dans le deuxième Vendredi 13, si mes souvenirs sont bons, dans la première scène, cette fameuse survivante, en fait, elle y passe vite fait, bien fait dans son appartement, puisqu'elle trouve la tête. Je crois qu'elle trouve la tête de maman Ouris dans son frigo, et puis elle se fait trucider vite fait par le tueur du vendredi, c'est le titre du deuxième film, et donc Jason Ouris. Donc elle fait pas long feu dans le deuxième, mais dans le premier, elle est combattante, elle tue la maman. C'est intéressant, comme tu disais, Carlito, c'est que c'est une femme et qu'on s'y attendait pas que ce soit elle qui tue tout le monde, vu les lances avec lesquelles elle tue tout le monde.
C'est un combat final de femmes.
Ouais, exactement.
Ce sont deux femmes qui s'affrontent et tous les autres ont été décimés.
Exactement. Ce qui va un petit peu à l'encontre de la règle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que dans le slasher, normalement, le tueur est plutôt un homme et se sert de son arme comme d'un sexe, finalement. Là, en l'occurrence, c'est une femme. Ça contredit un peu la règle de base. Après, cela étant, là où c'est un petit peu mal amené, c'est que ça aurait pu être n'importe qui, en fait. Puisque
Je suis d'accord.
Pamela Ouris, en fait, on la voit pas tout le film. Et elle débarque.
Elle apparaît à la toute fin, quand les trois quarts des monos ont déjà été butés. Et je crois elle est déjà toute seule. Hein, la dernière il n'y a déjà plus qu'une seule survivante quand elle a fait son apparition.
Et comme tu le disais, Carlito, ça aurait pu être ton grand-oncle à l'époque. Qui débarque dans le film parce qu'on aurait pu avoir des soupçons sur ce personnage apparemment, enfin bon c'est une autre histoire, bon en l'occurrence c'était pas lui et donc c'est pas Mel Ouris qui débarque. Bon alors voilà, cela étant ça surprend un petit peu, et puis ce qui finit d'enfoncer le clou encore une fois et qui fera que Vendredi 13 reste sûrement aussi pour ça dans les esprits, c'est la toute fin, le tout dernier plan. Tu peux nous en dire un peu plus?
D'abord il y a quand même une jolie décapitation à la machette. Assez joli, hein. Donc maman Ouris y passe de cette manière-là. Et après, effectivement, on a la jeune, c'est Alice, je crois, qu'elle s'appelle, la survivante, qui va se réfugier au milieu du lac sur un canoë et attend l'arrivée de la police, qui arrive le lendemain matin. Elle est tranquillement en état de choc quand même assez puissant. Hein.
Elle profite du lac.
Oui, elle est quand même traumatisée au dernier degré, elle trempe sa main dans l'eau en voyant les policiers arriver et lui crier des choses qu'on n'entend pas, et elle se dit, elle reprend un peu espoir, et elle se dit ça y est, le cauchemar est terminé, et d'un seul coup, on a Jason qui sort de l'eau derrière elle, qui l'empoigne par le cou et qui l'attire dans le fond, et cette scène effectivement, quand il n'est pas préparé, c'est assez difficile de pas sursauter. Hein.
Elle marque, elle reste que dans les esprits. C'est un jeune Jason défiguré qui sort de l'eau et qui l'emporte avec lui.
Et on voit d'ailleurs qu'il la marque, qu'il l'a profondément marqué, hein, parce que comme vous allez le voir dans cet extrait quand elle se réveille à l'hôpital.
Est-ce qu'il y a des survivants? Ils ont tous été tués?
Deux de mes hommes vous ont sorti du lac. On vous croyait morte aussi. Vous vous souvenez de quelque chose?
Et le petit garçon, est-ce que lui aussi, il est mort?
Qui?
Le petit garçon, Jackie.
Jackie?
Oui, le petit garçon qui m'a attrapé dans la barque et qui a essayé de me noyer.
Désolé. On n'a pas trouvé de petit garçon.
Mais... alors, il est encore là.
Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle ne passera pas le cap du deuxième épisode, puisque elle a survécu à la fin du premier, mais elle reviendra très très rapidement dans le début du deuxième.
Mais ce final, est, pour moi, c'est quand même ces 5-7 dernières minutes qui lancent la saga. Quoi.
Ah ouais, exactement, ça lance la saga, parce qu'après, c'est bien Jason qui va prendre le relais et qui va devenir le boogeyman qu'on connaît au fil de tous ces épisodes. Alors, quand même pas très bon dans l'ensemble, hein, on peut le dire.
Ah non,
une saga qui brille par la qualité.
Déjà, le premier donne un peu le son, hein, donne un peu le rythme, c'est quand même pas du grand art.
Voilà, encore une fois, le seul intérêt, ce sera de voir comment Jason trucide tout le monde, comment il meurt à la fin et comment il revient au début de chacun des épisodes d'après. Peut-être un petit mot quand même sur un point qu'on n'a pas évoqué, parce que dans Vendredi 13, ils essaient un petit peu aussi de mettre leurs pattes là-dessus, c'est la musique.
Tout à fait.
Dans Halloween, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a une musique incroyable de Big John, hein, qui comme d'hab fait la musique lui-même,
fantastique.
Avec son petit bon tant pis à la maison. Hein,
ouais.
Voilà, c'est quand même magnifique.
C'est vrai que c'est du très 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 haut niveau. La musique, elle te reste dans la tête, elle exprime la terreur et l'horreur, et elle fonctionne hyper bien avec plein de plans. Et je pense que c'est extrêmement intéressant d'ailleurs que Carpenter soit à la fois réalisateur et compositeur, parce que je pense qu'il doit composer sa musique en voyant en projetant mentalement les images qu'il veut tourner, ou inversement, mais en tout cas, ça marche souvent très très bien l'un avec l'autre. Bon. Vendredi 13, on va se le dire tout de suite, ça marche quand même moins bien. Il y a des fans de la musique, il y en a qui disent que c'est quand même assez efficace. Bon, moi, encore une fois, hein, j'ai commis l'erreur de regarder Vendredi 13 après Halloween, et donc, pour moi, il n'y a pas de...
Il y a une tentative. C'est clairement, au niveau de la musique angoissante, il y a une tentative de créer une empreinte un peu comme Carpenter.
Elle est plutôt dérangeante, en fait.
Oui, elle met mal à l'aise. En cela, c'est assez réussi. C'est plus un élément de sonore qu'une musique, presque.
C'est ça. Alors,
quand il arrive, ça fait un petit... un truc comme ça. Tu pourras nous expliquer d'ailleurs ce que ça veut dire, je crois que c'est.
Ah, pareil, oui.
Et donc, bon, après, c'est une musique caractéristique, hein. On la retrouvera dans tous les épisodes. D'ailleurs, il y a certains films qui vont essayer de trouver un petit gimmick sonore comme ça proche de Vendredi 13, ça va devenir un peu une marque de fabrique. Bon, voilà, c'est pas du niveau de Carpenter, mais ça crée un environnement. Voilà, ça crée une petite plage d'angoisse quand le tueur approche ou quand il est prêt à tuer, puis ça suivra dans toute la saga, c'est vrai.
Ouais. Oui, il paraît. Alors, je sais pas, moi, je l'ai réécouté, j'ai pas vraiment entendu ça, mais il paraît que... Alors, j'ai peut-être pas tout réécouté, j'ai peut-être pas écouté le bon extrait, j'en sais rien, mais il paraît qu'à un moment, effectivement, il y a une espèce d'onomatopée qui se rajoute sur la musique, qui disent un petit peu... Et donc, c'est en fait la traduction de « kill her, mom, kill her ». Donc, voilà, « tue-les, maman, tue-les ».
Voilà. C'est Jason qui lui parle. Voilà, donc en tous les cas, je pense qu'on a fait le tour du copiculte du jour de Vendredi 13. Voilà, donc pas un grand film en tant que tel, mais un film qui a marqué le genre lui aussi et qui a permis à d'autres de venir après.
Et un vrai copiculte.
Pérennisé après les années. Et un vrai copiculte, voilà, exactement.
Et maintenant, on va basculer évidemment dans notre séquence « Ça se discute ».
Ça se discute.
Quel est votre pronostic pour ce combat ?
Une boucherie.
Pourquoi les flics ont toujours pas mis la main dessus ?
Parce qu'il s'est fait buter comme les autres. Juste avant la fin du film, on retrouvera son cadavre quelque part. Les yeux en dehors des orbites, les dents arrachées et tous les doigts coupés. Quand je te dis que les flics ont toujours un train de retard, qu'ils regardent le bal de l'horreur, ça leur éviterait de ramer. Il y a une formule là-dedans. C'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect.
Et oui, tout le monde est suspect dans ce film, et c'est même le principe de Scream de reprendre les règles bien connues du slasher et de les réadapter, de les contourner. C'est donc l'objet de notre Ça se discute, et on va vous parler de Scream, un film réalisé par le grand, l'unique, le magnifique, le fantastique Wes Craven, à qui l'on doit notamment Freddy, La dernière maison sur la gauche, notamment, et tant d'autres films, La colline à des yeux, bref, un réalisateur culte du genre que l'on aime. Wes Craven qui réalise Scream en 1996, Scream intitulé Frisson au Québec.
Et dont le titre initial était Scary Movie.
Exactement, Scary Movie, sur un script de Kevin Williamson. On reparlera de Kevin Williamson, pour un budget quand même, pour un slasher de 14 millions de dollars.
Et ah oui, là on ne joue pas dans la même cour que Vendredi 13 ou Halloween, hein. Là c'est plus de la bricole.
Budget supérieur à la moyenne des autres slashers, mais nos amis producteurs devaient se douter qu'il y avait un fort potentiel, et ce fort potentiel, il a été confirmé puisque Scream a réalisé 173 millions de dollars de recettes à travers le monde, qui fait de lui le slasher le plus rentable de tous les temps, et qui a donné lieu par la suite à une saga que l'on connaît, puisqu'il y a eu 4 Scream, et il y en aurait un autre en préparation au moment où l'on enregistre ce podcast. Donc Scream date de 1996, Et il arrive à un moment où, c'est vrai, le slasher s'est essoufflé. Dans les années 80, on a quand même essoré le genre au maximum, avec des produits de moins bonne qualité de film en film. Et donc, le slasher, c'est terminé, ça n'existe plus, ça n'intéresse plus personne. Mmh. Et c'est là que Craven arrive avec, et Williamson arrive avec Scream, qui va redonner ses lettres de noblesse au genre. Et après Scream, ça va lancer encore une bonne dizaine d'années de slasher dans tous les sens.
Alors, ça à Scream. Les lettres de noblesse, justement, c'est un peu pourquoi il est dans la rubrique « ça se disculpe ». Est-ce que c'est ça ou pas ? Parce que et pour le coup, c'est pas qu'on soit pas d'accord sur ce film, mais on peut vraiment se poser la question de dire est-ce que c'est un slasher dans la droite ligne des deux qu'on vient de voir, ou est-ce qu'il n'a pas, à lui tout seul, créé une espèce d'embranchement dans le genre, un sous-genre, et ça en fait une espèce d'objet à part.
Exactement. Est-ce que Scream est un slasher, ou est-ce que Scream est le début du néo-slasher, du méta-slasher, du nouveau slasher, c'est-à-dire le slasher, mais oui...
Avec de l'humour noir, avec du second degré...
Comme ses aînés, voilà.
Et avec du gore quand même très affirmé.
Exactement. Alors, à l'affiche de Scream, on retrouve Neve Campbell, qui a, je dirais, à l'instar d'une Jamie Lee Curtis, a été quand même abonnée au rôle de Scream Queen pendant quelques temps après. Elle aura eu une petite carrière, mais c'est vrai que Neve Campbell, maintenant, elle ne fait plus grand-chose.
Toute petite la carrière.
Là où Jamie Lee Curtis a quand même su se réinventer, faire pas mal d'autres choses, même si aujourd'hui elle surfe quand même sur la vague Halloween. On a aussi au générique David Arquette, le frère de Rosanna Arquette, qu'on a vu notamment dans Le Grand Bleu. Alors, David Arquette...
Et dans, moi je l'ai surtout vu dans Arak Attack. Hein.
Oui, c'est vrai. David Arquette a fait Arak Attack, qu'on aime bien.
Ah bah oui.
Voilà, qui est très sympathique. Hommage au B-movie de monstres des années 50. Bon, David Arquette, il a pas fait grand-chose, il a fait quand même beaucoup de Scream, mais il est sympathique dans ce film. Il est aux côtés de Courtney Cox. Donc, Courtney Cox, souvenez-vous de Courtney Cox, qui jouait un des rôles majeurs, qui jouait
Monica
dans la Geller. Série culte Friends.
Et alors, non mais attends, figure-toi, parce que moi je me suis plongé aussi dans sa filmographie et j'ai découvert, alors il faut quand même vérifier ça, elle aurait joué dans Les Maîtres de l'Univers.
Ah oui, exactement, je te confirme. Elle a joué dans Les Maîtres de l'Univers de la version 87-88 produit par nos amis Golan Globus la Canon avec notre ami Dolph Lundgren dans le rôle du prince des Eternia.
Je me rappelle bien de Dolph, mais je me rappelle pas de Monica
Geller,
moi.
Et si, Monica Geller, Courtney Cox, qui joue dans ce film, effectivement. C'était le début de sa carrière, mais tout comme, souviens-toi, elle a joué dans Superminds, la série un petit peu de super-héros qui a pas eu beaucoup d'épisodes, et dans le clip de Bruce Springsteen, qui est sa première apparition à l'écran Born in the USA. C'est-à-dire que Springsteen, dans ce clip, il chante sa chanson sur une scène, à un moment il fait monter quelqu'un du public, et ce quelqu'un c'est Courtney Cox dans sa toute première apparition. Bref, Courtney Cox,
et elle épousera du coup
David Arquette.
Voilà.
Ils auront quelques années de mariage tous les deux. On citera aussi Liv Schreiber, alors qui apparaît furtivement dans le premier Scream, et qui est un acteur après qu'on a vu dans Wolverine Origin, qui fait le dent de sabre, qu'on a vu aussi dans une série plus récente sur Netflix, dans laquelle il a le premier rôle. Mais figure-toi que là, tout à coup, le nom de la série ne me revient pas.
Je l'ai pas, moi.
Voilà, mais bref, il a un rôle majeur dans cette série, qui est une très bonne série. Peut-être que le nom me reviendra en cours de route. Et puis quand même, spécial dédicace à celui qui tient le rôle du proviseur du lycée.
Fonzie ?
Eh oui.
Pardon, Henry Winkler.
Henry Winkler qui a incarné le mythique, l'inoubliable Fonzie dans la série Happy Days, donc Fonzie Mr. Cool. Fonzie, à qui l'on doit d'ailleurs une expression qu'on emploiera peut-être dans nos futurs podcasts, qui est la fameuse Jumping with the Sharks, c'est-à-dire ce fameux moment où un film va trop loin dans le scénario et part sur des
souvent,
trucs tellement pas crédibles. Ça vient d'une scène de Happy Days dans laquelle Fonzie fait du surf, je crois, en surfant non pas sur des ski nautiques mais sur des requins, me semble-t-il, d'où l'expression Jumping with the Sharks. Et Henry Winkler a produit aussi une série, qui reste dans mes séries cultes des années 80, c'est-à-dire MacGyver, puisqu'il était producteur de MacGyver. Voilà, donc on le voit en tant que proviseur du lycée.
Et puis il y a aussi Drew Barrymore qui fait la scène d'ouverture. Elle fait la scène d'ouverture, en fait, elle aurait dû être le premier rôle, mais je crois qu'elle était très peu disponible à ce moment-là, et du coup elle a accepté un rôle dans le film, mais elle ne voulait pas être le premier rôle, elle n'avait pas le temps en fait de faire tout le film, et Wes Craven s'est dit on va faire l'ouverture avec toi, tu seras la première sacrifiée du film. Et puis il y a aussi Rose McGowan.
Oui, c'est vrai.
Il y a quand même des
un
casting
McGowan,
solide, hein.
Rose McGowan qu'on verra après beaucoup dans la série, notamment Charmed.
Oui, et puis elle a fait aussi Boulevard de la Mort, Planète Terreur. Ouais. Enfin, elle a fait des trucs.
Ouais, c'est un peu engouffré dans le genre.
Voilà aussi. Hein, ouais.
Alors, donc Scream, au-delà de dire que c'est un grand réalisateur, un casting intéressant.
De quoi que ça cause.
De quoi que ça parle, et puis après, slasher ou pas slasher. Quoi, voilà.
Bah alors, le pitch. Alors, si je vous fais le pitch, c'est assez simple en fait. Un an après le meurtre de sa mère dans une petite bourgade sympathique des États-Unis, parce que ça se passe quand même assez souvent dans une petite bourgade sympathique des États-Unis.
Woodsboro.
Voilà. Un tueur apparaît et cible la jeune Sydney, ainsi qu'à peu près tout ce qui passe à sa portée, hein, parce qu'il va défourailler sévère quand même le tueur. Et évidemment, une journaliste débarque, attirée par la possibilité de faire un scoop, et les meurtres continuent à s'accumuler. Saura-t-on enfin quel est le sadique qui est derrière tout ça ? Eh ben, si tu regardes, tu sauras.
Voilà, j'ai envie de te dire, tu le sauras à la fin du film. Alors, Scream, slasher, pas slasher, parce que ça reprend un certain nombre de codes du genre, mais comme le dit Kevin Williamson, lui, il avait envie de dépoussiérer complètement le genre. Du coup, il se joue pas mal des règles du slasher, et il met en scène des personnages qui les connaissent toutes. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Exactement, d'ailleurs, on vous le montre tout de suite, puisque très rapidement, en fait, dans le film, on vous donne les règles. Les règles du slasher, celles qu'il faut absolument respecter pour ne pas se faire tuer.
La virginité est un rempart contre le mal, c'est une des règles du genre.
Quelle règle ?
Tu ne connais pas les... À ta place, j'aurais honte.
Oh là là, il va nous faire un malaise cardiaque.
Dans tout bon film gore, il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Procédons dans l'ordre. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Pas d'exception, jamais d'exception.
Il va se faire lâcher.
En langage gore, sexe rime avec mort, ok ? Règle numéro 2, ne jamais picoler, ni se shooter. Boire est un acte avilissant qui conduit toujours à enfreindre la règle numéro 1. Règle numéro 3, ne jamais, au grand jamais, dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite, parce qu'on ne revient jamais. »
Je vais chercher une bière, qui en veut une.
Ouais, je veux bien.
« Je reviens tout de suite. Oh. »
Tu ne respectes pas les règles.
Eh oui, parce que dans un slasher, si tu as des rapports sexuels, tu te fais tuer. Si tu consommes de l'alcool ou de la drogue, tu te fais tuer. Et évidemment, ne jamais dire au grand jamais.
Ah non, mais non.
Je reviens tout de suite. Parce que si tu dis je reviens tout de suite, tu ne reviendras jamais.
En fait, t'as une target sur ta tête.
Voilà, donc toutes ces règles sont bien posées, les personnages les connaissent, puisqu'ils ont été nourris, biberonnés aux slashers des années 80.
Bah, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que quand les jeunes se réunissent dans la baraque, qu'est-ce qu'ils regardent ? Halloween.
Eh oui, évidemment. Il regarde Halloween parce que Wes Craven fait un hommage, une référence à Halloween, tout comme John Carpenter, lui-même, en son temps, dans Halloween, faisait hommage et référence à The Thing.
Tout à fait.
Puisqu'on voit les images.
The Ward Hawks.
Voilà.
The Ward Hawks, et dont il réalisera le remake 4 ans plus tard.
Et j'espère bien qu'on en parlera un jour.
Ah, mais il est fantastique, remake. Il faut qu'on en parle.
Et John Carpenter qui met aussi en scène, enfin dans un plan et qui diffuse dans Halloween, Planète Interdite évidemment, film culte de SF avec Leslie Nielsen avant qu'il devienne le fameux inspecteur de tous les films des Y a-t-il un pilote,
exactement.
Y a-t-il ceci, Y a-t-il cela, Leslie Nielsen qui a joué des rôles, quelques rôles sérieux dont celui-là. Bref,
mais il y a quand même beaucoup d'allusions dans Scream et donc c'est assez drôle parce que d'un côté, voilà, alors on dit « Oui, moi les slashers, je m'en affranchis, je m'en fous. » Et puis finalement, bon bah les règles, on les donne. Ouais, mais on les respecte quand même. Et il y a quand même énormément de références au maître du genre et à l'initiateur du genre qu'est Halloween.
Ouais.
Il y a quand même... Mais et évidemment, bon, il y a le fait que les mecs, les jeunes le regardent à la télévision, il y a la scène d'introduction où, d'un seul coup, il y a un petit quiz sur les films d'horreur où on te parle de Vendredi 13, où on te parle d'Halloween, etc. Ouais. Et même jusque dans la silhouette du tueur. Parce que Michael Myers, il est quand même plutôt, c'est quand même plutôt une silhouette sombre, avec un visage avec ce masque très blanc. Là, qu'est-ce qu'on a? Hein, on a là aussi quelqu'un qui est vêtu de noir entièrement, et le seul point blanc, c'est le visage, c'est le masque.
Notre ami Ghostface, on l'a surnommé tout comme ça, avec ce masque issu de la peinture célèbre de Munch, le cri, qui reprend ça.
Et ça là aussi, c'est un des attendus du slasher.
Oui, tout à fait. C'est trouver le bon costume, le bon masque, etc., qui laissera une empreinte durable, qui caractérisera le tueur, avec néanmoins quelques différences. Et c'est là que c'est intéressant dans Scream, c'est que ça joue avec les règles, parce qu'il a beau les rappeler, ces règles, et les poser. Dans certains cas, les personnages en sont prisonniers et vont finalement à leur insu devoir les respecter. Je pense par exemple à la scène où Neve Campbell dit au téléphone « Non, non, mais dans les films, bien entendu, c'est complètement stupide que le personnage monte à l'étage quand il
mais
est
poursuivi. » Mais on l'a, cette scène, on la passe tout de suite.
Et voilà.
Une cassette.
Tu aimes les films d'horreur, Sydney?
Ce que j'aime quand tu prends cette voix, Andy, c'est très sexy.
Quel est celui que tu préfères?
Tu sais bien que je regarde jamais ces trucs-là.
Pourquoi? Ça te fait peur?
Non, c'est que c'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle, c'est consternant.
Tu es toute seule dans cette grande maison.
T'as rien trouvé de plus original? Là, franchement, tu me déçois, Randy.
Peut-être parce que je ne suis pas Randy.
Donc, à son insu, elle est quand même obligée de faire ce qui se passe dans les films. Donc, elle est rattrapée par les règles. Ça c'est plutôt marrant. Mais quand on prend, par exemple, Ghostface. Ghostface, il a beau être un tueur avec un masque, etc., très caractérisé. Ghostface, à la différence
des autres... Qu'est-ce qu'il est bavard, celui-là ! Fou !
Et il en prend plein la tronche.
Ah, ça, par contre, il se fait bien démonter la gueule, c'est
tout
clair.
Tout le temps, quoi. Je veux dire, autant les autres, que ce soit Meyer au fil des films, ou Jason, en général, on leur fait physiquement, on leur fait pas grand-chose. Hein. Les gars ont quand même du mal à...
C'est vrai qu'ils sont pas faciles, ils sont durs au mal, quoi.
Ouais. Ils sont du romal, quoi. Ils sont des tall guys, quoi. Bon,
par
là,
contre, Ghostface, il se fait défoncer.
Voilà. Lui, alors, il n'est pas très crédible à ce niveau-là, mais bon, mais il arrive quand même à son but, mais il se fait défoncer tout le temps.
Mais, ceci étant, quand tu sais après qui c'est un peu plus logique.
C'est vrai, c'est un peu plus logique. Tout se reconstruit un petit peu de manière logique. Et puis, il y a aussi des scènes intéressantes. C'est que on a parlé à plusieurs reprises dans ce podcast de la virginité du personnage principal, qui est une règle. En général, c'est la vierge. Elle est vierge, elle est pure, elle est prude, et elle arrive à ses fins et elle tue le tueur. Alors là, ce qui est intéressant dans le film de Wes Craven, c'est que, du coup, sans le savoir, Neve Campbell fait l'amour avec son petit copain, mais il s'avère que son petit copain, c'est le tueur.
C'est le tueur.
Il le sait que c'est lui le tueur. Mais donc, du coup, la règle est cassée, puisque, du coup, elle a fait l'amour, et normalement, elle ne devrait pas survivre à la
fin. Mais c'est une nouvelle règle. Si tu fais l'amour avec le tueur, ça compte pas.
Voilà, et surtout, si le tueur sait que tu es vierge et que tu
fais
l'amour
avec lui. C'est annulé.
C'est annulé. Parce qu'en fait, le tueur, il n'aurait pas dû mourir. En tout cas, c'est pas elle qui aurait dû le tuer, et pourtant, c'est elle qui va liquider le tueur. Que dis-je ?
Les tueurs. Et ça aussi, c'est une nouveauté qu'introduit Wes Craven, parce que je crois que c'est la première fois où on voit un tandem de slasher.
Ouais, je crois aussi. C'est la grosse surprise à la fin du film, c'est que les types sont deux, en fait.
Ouais. On en soupçonnait bien, quand même. Hein. Oui. On se disait, ah, le petit ami, quand même, il a l'air un peu... Mais l'autre, on le voit pas venir.
Mais oui, et en plus, il introduit cette scène, attention, spoiler, mais une scène où le petit ami se fait tuer.
Ouais.
Donc forcément, ça l'exclut de la liste. En fait, évidemment, il n'est pas mort. Et donc là, twist incroyable à la fin. Mais il y a plein comme ça de petites astuces qui rendent le scénario très très bon. Je pense notamment aussi à ce moment où en fait, Courtney Cox et son journaliste et son cadreur caméraman enregistrent tout ce qui se passe dans la maison.
Oui.
Là, de manière assez subtile, Wes Craven
introduit le fait
qu'il y a un petit décalage de 30 secondes.
C'est génial.
Et que ce qu'il voit à l'écran, en fait, c'est passé 30 secondes avant.
Oui.
Et on finit par l'oublier, en fait, ce décalage-là. Sauf qu'à un moment
sauf
donné,
que quand
on
la pression monte,
par la réalité. Voilà.
Quand la pression monte et qu'on voit effectivement, et c'est assez drôle d'ailleurs, parce que c'est le geek de service qui est affalé dans le canapé et qui est en train justement de regarder et de conseiller Jamie Lee Curtis sur ce qu'il faudrait qu'elle fasse dans Halloween ou pas, et le tueur arrive derrière elle. Et évidemment, ils deviennent fous. Ils disent, oh mon Dieu, ils sont dans le camion régie, et ils se disent, faut vite réagir. Et dès qu'ils ouvrent la porte du camion régie, ils s'aperçoivent que la porte de la maison est déjà ouverte, parce que il y a ces fameuses 30 secondes de décalage qui font que le tueur, il est plus dans la maison, il est juste là et il te plante.
et il te plante sévèrement. Voilà. Donc ça, c'est très marrant parce que le scénario est très habile à ce niveau-là. Après, il y a aussi Wes Craven, il passe son temps, et Kevin Williamson passe leur temps à jouer avec les règles. Prenons une autre scène aussi, normalement, dans les films, dans les slasher movies comme ça, adressé aux adolescents, il y a toujours des plans sains, il y a des corps nus, des filles qui se dénudent, etc.
Oui, c'est vrai.
La seule scène où Neve Campbell est censée enlever le haut et montrer ses seins, eh bien, elle ne les montre pas. Voilà. Et c'est assez marrant. On ne les voit pas.
C'est vrai.
Il dégoupille, en fait, il se joue, en fait, du cliché, et il ne l'applique pas à son propre film. Donc, il y a plein de moments comme ça dans Scream. Autre petit clin d'œil, c'est qu'il y a le personnage du petit ami, donc du tueur, l'un des deux tueurs, s'appelle Billy Loomis. Loomis, étant une référence évidemment au docteur Loomis,
Carpenter.
Et puis à un moment donné, il y a une scène où ils évoquent un personnage qui s'appelle, qu'on ne voit pas, mais qui s'appelle Wes Carpenter. Donc on voit clairement l'hommage que Carpenter rend à Big John, à John Carpenter.
Bon, après, il y a une règle qu'on respecte quand même, c'est que le tueur, il est quand même vachement dur à tuer, parce que ils s'y reprennent quand même un certain nombre de fois avant d'arriver à buter tout le monde. C'est quand même très... Le final est quand même très long et très compliqué.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis en plus, alors c'est là que c'est marrant, c'est que c'est qu'une fois qu'ils sont révélés, dévoilés, les deux tueurs, qui sont deux potes, alors en gros, leur motivation, c'est qu'en fait, la maman...
Oh bah attends, mais on va vous les passer.
Oui,
on va passer en extrait, parce qu'il explique très bien. Non, ce sera pas plus clair, mais...
Il expliquera mieux que moi.
Ouais, peut-être. Mais en tout cas, il nous a bien fait rire quand il le dit. Donc voilà, ils sont motivés par... Écoutez.
On lui a rendu un immense service à ta mère. C'était qu'une roulure qui exhibait son cul en ville en se prenant pour Sharon Stone.
On a abrégé sa misérable existence parce qu'il faut dire ce qui est. Ta mère n'avait rien de Sharon Stone. Hein ?
C'est un mobile qui envoie un autre. Il ne te suffit pas. Alors écoute, ta salope de mère se faisait mon père. Et c'est à cause de ta mère que ma mère m'a abandonné. Pas mal comme mobile, hein ? L'absence d'une mère peut être à l'origine de graves troubles psychiques. Tu vois où ça t'a mené, toi, coucher avec un psychopathe ?
Eh ouais, t'as fini par succomber. La Vierge a été déflorée. Encore une histoire de sang. Tu as enfreint la règle. Tu connais la sentence.
Imagine, on est dans un film d'horreur. Essaie de deviner la fin.
Voilà, donc en fait c'est qu'une histoire de famille un petit peu débile. Bon voilà, donc ils sont motivés par ça et
ça justifie quand même 247 meurtres et demi. Hein.
ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. C'est que bon, voilà, les types ont cette motivation-là, bon, très bien. Mais au-delà de ça, au moment où on les démasque, en fait, ils deviennent vraiment ridicules tous les deux quand même. Hein. Et c'est là qu'on sent que le costume a ce pouvoir de les rendre impressionnants. Mais alors quand ils l'ont plus, c'est terminé.
Ah bah il y en a même un qui devient carrément pathétique. Hein, regardez ce qu'il dit.
Salope ! Aïe, t'es pas obligé de me foutre le téléphone dans la gueule ! Montre-toi, poucave ! Je vais t'arracher les tripes ! T'as vraiment appelé la police ?
À ton avis, tu crois que je suis gêné ?
Merde, mes parents vont être sacrément pétards contre moi !
Salope !
Voilà, donc en espérant à la fin tromper la police en se faisant s'auto-poignardant, c'est vrai que c'était pas la meilleure idée qu'ils aient pu avoir, notamment quand on travaille avec un psychopathe encore pire que soi-même, c'est vrai que se laisser poignarder par ça, ça peut prêter à des conséquences néfastes. Est-ce que du coup Scream est un slasher au même titre qu'Halloween ou Vendredi 13 ? Pas tout à fait quand même.
Il respecte quand même s'ils s'en moquent, il respecte quand même les règles du slasher parce qu'on les attend et on les retrouvera dans les opus suivants. On les retrouvera, ces règles. Mais il détourne un peu le genre, il le transforme, il introduit quand même pas mal d'humour noir, il introduit pas mal de...
Second degré.
Et on est quand même beaucoup plus dans le gore, moi, je trouve.
Il y a quelques. Oui, quand même, ça pisse
le sang de partout. Hein.
C'est pas du vendredi 13, c'est pas du niveau de vendredi 13 quand même.
Non, mais il y en a beaucoup. Hein.
C'est un gore plus stylisé.
Non. Un peu moins sale. La scène de fin, on patauge. Hein. C'est quand même une, ouais, c'est quand même une piscine de sang, hein, le hall d'entrée de la maison. Hein.
Ça patauge, c'est vrai, ça patauge.
Mais on peut pas dire qu'on soit pas dans le genre. On est dans. Mais je pense que c'est un sous-genre.
En fait, la vérité, c'est qu'on est dans autre chose.
Mais c'est un sous-genre qu'on ira peut-être explorer un jour.
Ah mais complètement, parce que Scream a donné naissance, en fait, Scream, c'est le renouveau,
voilà. Derniers, les...
ça a fait une belle carrière à Kevin Williamson, hein, qui après a été au script de pas mal de néo-slasher, ça a relancé le genre, et donc grâce à Scream, c'est vrai qu'on a eu un nouvel engouement, un engouement pour le genre, même si lui, du coup, est parti du principe qu'on pouvait se jouer des règles et les détourner et pas les respecter à 100%, voilà, donc du coup, est-ce que c'est un slasher pur, comme on peut dire, non,
oui,
non,
il
n'est pas
évidemment.
Un slasher pur, c'est un slasher qu'on pourrait connoter d'impur, comme certains le disent, mais c'est un slasher quand même, et on lui doit quand même plusieurs années, plus de 10 ans, voire 15 ans, de films, qui pour certains ont été très bons, et qui sont allés dans ce genre, grâce à Scream.
Et alors, petite anecdote avant de basculer dans notre rubrique nouvellement nommée Ridiculte. Petite anecdote, mais qui vous glacera un peu le sang, parce que c'est une histoire vraie, en fait. C'est le tueur en série du film est inspiré d'un véritable tueur en série ayant sévi en Floride et qu'on surnommait The Gainesville Reaper. Il a été rendu coupable de 8 meurtres et a été exécuté par injection létale en 2006. Alors je sais pas jusqu'où, de quoi exactement s'inspire le film de Wes Craven. Mais ce serait intéressant de s'y pencher un peu plus.
Est-ce que t'es sûr qu'il est bien mort?
Je sais pas, moi j'ai vu Shocker, il revient après.
Bah ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est ça après. Et dernier truc, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'allais trouver, mais Liv Schreiber, qui joue celui qu'on pourrait penser accusé de tous les meurtres parce qu'il a été soupçonné d'avoir tué la mère de Liv Campbell, en fait il joue dans Ray Donovan. Voilà, c'est ça la série.
Ah oui, évidemment, bien sûr.
Voilà, il a une belle carrière aussi quand même, Liv Schreiber.
Super. Bon, et ben maintenant, on va en voir d'autres qui ont eu une moins belle carrière, quand même.
Voilà, et c'est parti pour notre rubrique Ridiculte.
Ridiculte.
Ils sont très étranges. Très cons et très étranges.
Et nous voici donc dans notre ultime rubrique Ridiculte. Donc cette fois-ci, nous allons traiter les films qui clairement ont tenté de copier le genre, mais qui sont quand même passés très très loin
du sujet. Pour certains, c'est peu de le dire.
Et j'ai envie de te dire ceux qui n'ont pas su prendre le train en marche.
Ah, bravo!
Ce qui nous amène sans transition aucune à notre premier film, Terror Train, c'est-à-dire en français, Le Monstre du Train.
Ouais.
Qui est sorti en 1980, qui a fait quand même 3,5 millions de dollars de recettes, mais ce qui est peu par rapport à ce qui était escompté. Donc
et à ne surtout pas confondre avec The Hall, qui est un vrai bon film d'horreur qui se passe dans un train avec un monstre.
Ça, c'est un film de Roger Spottiswoode. Alors, Roger Spottiswoode, quand même, on peut le dire, c'est pas n'importe qui, parce qu'il a été monteur de Sam Peckinpah sur plusieurs films. Il a été co-scénariste de Walter Hill quand même sur 48 heures, et puis il a réalisé notamment un James Bond qui est un des meilleurs de Pierce Brosnan qui est Demain ne meurt jamais, Tomorrow Never Dies. Alors, que peut-on dire d'autre de Terror Train? C'est que
il a quand même une actrice en commun.
Exactement.
Avec un film mythique du genre, Halloween.
Et oui, parce que finalement, quelle est l'ambition, encore une fois, de Terror Train? C'est de surfer sur la vague Halloween. Et pour ça, qui on prend comme actrice principale? Jamie Lee Curtis, héroïne d'Halloween, qui tient le premier rôle féminin. On retrouve aussi un acteur un petit peu plus solide, qui s'appelle Ben Johnson.
Même très très solide,
tout
le garçon.
Tout à fait, parce que lui aussi, il a joué, hein, c'est devenu à un moment donné l'acteur fétiche de Sam Peckinpah. Il a joué dans La Horde Sauvage, notamment. Voilà, donc
il a fait un nombre incalculable de westerns. Ouais. Il a fait Rio Grande, il a fait Chisholm, il a fait Pendeléo et Court. Il a joué avec McQueen, il avait joué avec John Wayne. Avec,
non, c'est vrai que c'était pas n'importe qui, c'est un acteur connu, une figure connue à l'époque. Mm. Et puis on peut citer aussi Art Buckner, que l'on connaît.
Oui, parce qu'il a joué
mythique, lui aussi, dans un film que nous avons traité.
Exactement.
Voilà, qui s'appelle.
J'ai épousé une extraterrestre. Ah non, pardon. Piège de cristal.
Piège de cristal, puisqu'il joue, rappelle-nous, le rôle qu'il interprète.
Un sale terroriste, hein.
Voilà, exactement. Donc, du coup, un casting quand même hétéroclite, mais sympathique pour ce film.
T'en as même oublié un.
Ah oui, bien sûr. Parce que j'ai envie de te dire que finalement, le monstre du train...
C'est peut-être lui.
C'est peut-être lui le personnage principal. Et on s'en souvient surtout pour lui. J'ai nommé le grand, l'unique, le célèbre, le mystérieux, le nuque longue pendant longtemps, David Copperfield.
Oui.
Voilà, David Copperfield, du nom
qui joue donc un magicien.
Bah,
en fait,
qui joue, étrangement, il joue un magicien. En fait, je pense que le monstre du train, on l'aime si on est fan de David Copperfield. Parce que finalement, c'est sûrement celui qu'on voit le plus dans le film. Si on est fan de magie et de David Copperfield, c'est vrai qu'on peut apprécier le film.
Ouais.
Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les tours de magie de David Copperfield dans ce film ont été réalisés en vrai par David Copperfield, pour certains en plan séquence.
Enfin bon, il y en a trois qui se battent en duel, déconnons pas non plus.
Hein. Ah, il a fait le job. Mais enfin, ça remplit quand même un bon tiers du film. Ces tours de magie mythique. David Copperfield, souvenez-vous, dans les années 90, il a connu son apogée médiatique puisqu'on lui a prêté une liaison de longue durée avec Claudia Schiffer. On n'a jamais su vraiment si c'était vrai, Claudia Schiffer, mannequin phare des années 80, mais en tout cas, ils étaient censés être ensemble. Et David Copperfield, au-delà d'avoir fait des shows magnifiques, monumentaux à Las Vegas, c'était un des plus grands, c'est toujours d'ailleurs un des plus grands magiciens au monde. Et alors, petite anecdote quand même sympathique, quand même, on parle de David. David Copperfield, il raconte quelques années plus tard, qu'à chaque fois qu'il allait se produire dans une ville des États-Unis, figurez-vous que le premier truc qu'il faisait, c'est d'aller dans le vidéoclub du coin pour aller trouver la vidéo ou le DVD du monstre du train pour pouvoir le récupérer et ne jamais le rendre. Tellement il a eu honte de ce film. Donc voilà, ça vous en dit long quand même sur la qualité quand même intrinsèque du monstre du train. Voilà.
Ah, c'est sûr qu'on n'est pas tout à fait sur le même niveau que les trois dont on vient de parler.
C'est clair. Même si, alors clairement, l'ambition du film, c'est de surfer complètement sur Halloween. Ça reprend complètement la trame.
Si on va par là, hein, la 7e compagnie surfe aussi sur le jour le plus long. Hein, mais bon,
La comparaison est très bonne. Parce que, bon, alors, que dire au niveau du pitch, peut-être
Oui, bien sûr. Pitch, ouais. Tu vas voir, hein, ça va vite sur le pitch. Hein. Alors, sur les slashers, d'une manière générale, ça va vite, mais alors celui-là, on est servi. Ça dit quoi? En fait, ça dit une chose. Il y a une morale dans ce film. Hein. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé une morale. Il faut toujours bien choisir ses victimes quand on fait un bizutage, parce que sinon, on peut le payer très cher.
Très, très, très cher.
Et c'est ce que vont découvrir tous ces étudiants en médecine qui ont loué un train pour faire la fête toute la nuit. Tout le monde y est déguisé, mais il y a un invité surprise dans le train. Ce jeune étudiant dont ils s'étaient tous horriblement moqués il y a un an. Et il a toute la nuit pour se venger.
Et il va pas s'en prier, le beau gras. Alors déjà, on peut dire que la scène de trauma, la façon Halloween, hein, souvenez-vous, dans Halloween, c'est le Michael Myers petit qui tue sa sœur, tout ça, qui fait un vrai carnage. La scène de trauma est ridicule.
Clairement.
D'entrée, parce que le type, on lui fait croire qu'il va passer la nuit, qu'il va être dépucelé avec une créature de rêve. En fait, c'est Jamie Lee Curtis qui est cachée derrière un lit et qui lui fait croire qu'en fait, elle est dedans. Quand il arrive dans le lit, on comprend pas bien ce qui se passe, mais la nana, elle est dépecée, en fait. Hein,
ils ont trouvé c'est des étudiants en médecine, donc ils ont eu accès à un cadavre, ils l'ont foutu dans le lit, ils trouvent ça drôle, lui se lève, se prend dans les draps du baldaquin, et se met à crier comme un démon.
C'est vrai qu'il est quand même le seul personnage d'un film de tous les temps qui arrive à s'étouffer avec la moustiquaire, si je puis dire. Parce qu'en fait, il s'enroule dans la moustiquaire, dans un truc incroyable.
Il se met à hurler comme un fou.
C'est traumatisant comme scène, mais encore plus pour le spectateur.
C'est traumatisant.
Et là, alors attention, ellipse, si on nous dit 3 ans plus tard. Ouais. Halloween, c'est 15 ans plus tard, là, c'est 3 ans plus tard. Dans Vendredi 13, c'était aussi, après le premier meurtre, quelques années après l'assassinat des premiers moniteurs. Bref, et on se retrouve à une fête d'Halloween, en clin d'œil encore, bien entendu, au film de Big John. Et puis, on a toute une bande d'étudiants, fringants, tout ça, tous déguisés, qui s'apprêtent à passer Halloween dans un train. Alors, d'où le titre, probablement, monstre du train, j'imagine.
Pas con.
Il y a un vrai rapport. Et donc, il monte dans ce train. Alors, ce qui est quand même hyper mal foutu, c'est que d'entrée, on ne laisse pas le choix. On sait qui sera le tueur, en fait. Hein, quand même,
ah oui.
On sait que ce sera Kenny. Il s'appelle Kenny.
voilà. En plus, il s'appelle Kenny, c'est génial.
Donc, on sait que c'est lui qui sera le principal tueur. Voilà, on nous cache pas que ce sera lui, hein, le tueur du train, mais on ne sait pas sous quelle forme il sera déguisé, parce que c'est peut-être une des seules originalités du film, c'est que contrairement aux autres slashers, lui, il change de déguisement tout au long du film. On en a compté ouais. à peu près 11. Il a 11 déguisements différents, donc il change d'apparence en permanence. Donc c'est un petit peu original. Bah,
c'est ce que lui permet la fête déguisée, en fait, évidemment. Et puis au fur et à mesure qu'il bute les gens, il peut prendre leur déguisement et continuer à se promener dans le train, et ça permet encore moins d'attirer l'attention sur lui, puisque à chaque fois c'est un personnage différent qui peut se comporter de manière un peu anormale, mais c'est jamais le même, donc du coup il attire peu l'attention.
Voilà, exactement. Alors pas non plus, alors je dirais que Roger Spitzwood, il a voulu faire un truc un petit peu dans le traitement des meurtres à la Halloween, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sang, hein. c'est pas très gore. On s'ennuie quand même considérablement. C'est dommage parce oui. que le parti pris en fait de faire ça dans un train pendant le soir d'Halloween avec ouais. le déguisement et tout, ça aurait pu être hyper réussi.
Non, c'est une bonne idée de départ, je trouve. Vraiment. Et
pourtant, on s'ennuie ferme quand même pendant tout
ah
le
oui,
film.
Ah oui, c'est à chier.
Heureusement qu'il y a Jamie Curtis, ouais. parce que quand on la voit, elle illumine un petit peu la pellicule.
Ouais, enfin, elle illumine, elle fait ce qu'elle peut, parce que ouais. toute la pellicule est aussi dans la pénombre, hein, ouais, c'est même c'est le dire.
Et alors, d'ailleurs, c'est peut-être un des trucs remarquables du film, c'est que la photographie est plutôt intéressante, la manière dont les éclairages sont faits, les ambiances dans les différents wagons, etc. Ça, c'est un truc qu'on peut retenir. C'est plutôt pas mal fait, c'est plutôt bien travaillé. La mise en scène du train aussi, qui est un peu un personnage à part entière, est quand même assez impressionnante, assez bien fait. Donc ça, je trouve, voilà, ça marche pas mal. Mais au-delà de ça, c'est vrai que dès le début, bah voilà, il y a aucun enjeu. On sait très bien qui est le tueur. Les meurtres sont mal fagotés. Enfin, c'est assez ridicule.
Non, il s'agit juste de savoir où il est, en fait. Ouais. C'est le seul enjeu du film, c'est où est-ce qu'il se cache.
Voilà.
Puis et quand fois, est-ce qu'on va le démasquer.
Si on aime les spectacles de magie, c'est vrai qu'on y trouve son compte en regardant les tours de magie de David Copperfield. Alors, petit twist à la fin auquel on s'y attend pas, c'est vrai que l'assistante de David Copperfield a quand même toute une, au long du film, une drôle de tronche, faut quand même le dire. Et donc, évidemment, on n'est pas surpris à la fin lorsque l'assistante en question enlève sa perruque, enlève son dentier, enlève son maquillage, et là, qui on découvre, hein? Eh bah, c'est le petit Kenny du début, qui 3 ans après a eu envie de se venger de tous ceux qui l'ont bizuté, et donc qui a décidé de liquider tout le monde. Donc, voilà, à la fin, il y a une scène de combat, alors il y a une scène ridicule, où il y a le beau gosse du train qui se planque dans un wagon et puis qui ouvre tous les placards parce qu'il est persuadé que peut-être le tueur est dedans.
Oui, oui, bien sûr.
Il ouvre
je
tous
m'en
les
rappelle.
Placards ouais, un par ouais. un, donc il joue le stress, il le joue très mal, mais il joue le stress. Et puis en fait, il s'assoit sur la banquette. et là, en fait, depuis le début, le Kenny est planqué sous la banquette et lui attrape les pieds. Et alors, le mec en plus, il est quand même.
Il est costaud.
Il est costaud, voilà, il est en pleine force de l'âge, etc. Mais alors, il n'en fait pas une face au Kenny qui est pour le coup épais
ouais.
comme un poireau, quoi. Donc voilà, et pourtant, bon bah les mecs se laissent tous trucider par quelqu'un qui est loin, très très loin d'une force de la nature,
ouais.
comme peuvent l'être Jason ou Michael Myers, donc c'est encore plus ridicule. Bref, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bon bah voilà, il combat avec notre ami Jamie Lee Curtis, elle le tue une première fois, il revient,
elle le tue une deuxième fois,
bon voilà,
enfin, et après on en reste là.
Vraiment.
Et j'ai envie de dire, il faut qu'on en reste là.
Si vous voulez rigoler ou vous embêter sérieusement pendant un moment, bah, on vous conseille de regarder le monstre du train. Mais sinon, franchement, c'est carrément quand même complètement oubliable, on peut le dire.
Bah, c'est un essai raté de surfer sur le genre. En revanche,
tout à fait.
On en a d'autres qui sont un peu ratés, mais franchement barrés.
Alors, franchement barrés, et c'est le cas du second film qu'on veut évoquer dans Ridiculte, c'est Psycho Beach Party. Alors, Psycho Beach Party, il est plus récent, largement plus récent quand même, puisqu'il date des années 2000, 2000 d'ailleurs. C'est un film qui a été réalisé par Robert Luking, hein, qui jusque-là avait fait plutôt des courts-métrages. Un scénario de Charles Bush, qui a un rôle dans le film aussi, on le dévoilera tout à l'heure. Un film crédité quand même d'un budget d'1,5 million de dollars. Alors bon, les années 2000, c'est pas tant que ça quand même, hein, faut le dire.
Non.
Alors, Psycho Beach Party, c'est un mix de plein de choses. C'est-à-dire que c'est un film à la fois parodique de tous les mélos qu'on pouvait voir dans les années 50, d'une part. C'est un film parodie des films de plage aussi qu'on pouvait voir dans les années 60, sous influence Beach Boy et Surfing USA. Et puis, c'est parodique aussi des films de slasher qui nous intéressent aujourd'hui, des années 70, 80, 90. Au générique, on trouve qui pas d'acteurs très connus, mais plutôt des stars en puissance, ou des stars de série, ou des mini-stars de série.
Oui, c'est ça, plutôt des stars de télé que des stars de cinéma.
Voilà, exactement. On a Lauren Ambrose, qui était un des personnages principaux de la série In and Out. On a Frank Oz, qu'on verra un peu plus tard dans une série qui a cartonné mondialement, qui est Six Feet Under. Thomas Gibson, qui a joué dans Dharma.
Esprit criminel.
Greg, Esprit criminel. Et puis, moi, celui que je préfère. Celui qui m'a donné envie, regarde. Le film, on peut dire. Nicholas Brendon, parce que Nicholas Brendon, il jouait dans.
C'est le sidekick mou de Buffy.
C'est Alex dans Buffy contre les vampires. Et alors là, j'ai envie de vous dire que moi, en plus, Nicholas Brendon, je le connais personnellement. Voilà. peux le révéler. Voilà.
Raconte-nous ça.
Parce que
ça
figurez-vous, et là c'est quand même du lourd que je vais donner, c'est que depuis plusieurs années, je suis Nicholas Brendon sur Instagram. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je dois être à peu près son seul fan français. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas il y a moi en particulier. Et donc figurez-vous que Nicholas Brendon, c'est devenu un pote avec qui j'échange régulièrement et on se parle. Voilà. Et donc moi j'aime beaucoup Nicholas Brendon.
Mais invite-le. Voilà. Tu lui diras qu'on a chroniqué. Un de ses films.
Et j'aurais dû l'inviter dans l'émission d'ailleurs, et peut-être qu'un jour on le fera.
Mais oui.
Mais moi en tout cas, j'échange avec lui. Et Nicholas Brendon, en fait, de quoi il vit aujourd'hui ? De plus grand chose quand même, à part discuter avec moi, faut le dire. Parce qu'il a joué un temps lui aussi, je crois, dans Esprit criminel ou une série comme ça. Mais aujourd'hui quand même, il surfe beaucoup sur la nostalgie de Buffy contre les vampires, puisqu'il fait notamment.
Signer des photos dans les conventions, c'est
il
ça ?
Il fait signer des photos dans les conventions. Il fait des visites guidées qu'il organise lui-même avec ses fans des lieux de tournage de Buffy. Et il est sur cette fameuse et célèbre appli Cameo dans laquelle on peut booker 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes avec une célébrité pour fêter un anniversaire, passer un message à quelqu'un qu'on aime bien, tout ça, comme David Hasselhoff. On peut le faire avec David Hasselhoff.
Grandeur et décadence.
Voilà, grandeur et décadence.
Enfin, il n'a jamais été très grand non plus, mais.
Mais en tout cas, voilà, on ne critique pas Nicholas Brendon en ma présence, c'est un pote. Voilà, c'est un pote. Et donc, si vous voulez lui envoyer quelques messages, vous passez par moi
sur
le compte Instagram.
Moyenne en finance pour Nicolas et pour Tom.
Et ma petite commission, bien sûr, d'agent artistique de premier plan, donc n'oubliez pas sur le compte Instagram Le Bon, Le Culte et Le Navrant, et vous n'hésitez pas à me dire si vous voulez rentrer en contact avec le grand, le mythique, l'unique Nicholas Brendon, qui a donc joué dans Psycho Beach Party. Alors quel est le pitch de Psycho Beach Party?
Alors le pitch justement, tu le disais, c'est un peu il est un peu plus compliqué à faire celui-là, hein. Le pitch, c'est quoi? C'est on a une teenager dans les années 60, hein, c'est l'été aux États-Unis. Les drive-in. Mais ne pisse pas quand je parle. Ah, j'aime bien, tu y allais en plus hyper léger. Ah, magique. Je te jure, on aurait cru que t'étais aux toilettes, quoi. Putain!
Je m'y attendais pas du tout!
Alors
le pitch, du coup.
Alors, le pitch, c'est un petit peu plus compliqué que pour les autres, parce qu'il est quand même un peu plus foutraque celui-là, hein. Il y a un peu de tout. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une teenager, on est dans les années 60, c'est l'été, aux États-Unis, c'est la période des drive-in, c'est la période de la plage, c'est la période, c'est des garçons, c'est aussi. Exactement. C'est un peu ça. Ça drague sur la plage, ça va au drive-in, etc., etc. Mais il y a aussi dans cette petite bourgade, parce que c'est aussi une petite bourgade, même si on n'en voit pas grand-chose, on comprend bien qu'on n'est pas à Los Angeles. Hein. Il y a une série de meurtres incompréhensibles qui s'enchaînent à un rythme toujours plus rapide. Et il y a cette jeune fille qui a des trous de mémoire. Et des absences complètement incompréhensibles. Que va-t-il se passer ? Vous le saurez en regardant Psycho Bitch Party.
C'est un vrai mystère, en effet. Alors, c'est une galerie de personnages assez sympathique et hétéroclite hein, dans Psycho Bitch Party, puisqu'il y a quand même des surfeurs homosexuels.
Ouais.
Il y a un personnage, on ne sait pas trop quand même si c'est un homme ou une femme, et il nous présentait comme une femme, le chef de la police.
Non, l'inspecteur Clouseau, c'est quand même Joao le Travelot, hein, voilà. Faut le dire. Il s'est assumé, hein, il le montre clairement.
Et donc, c'est le scénariste.
T'as aussi une nana très vénère en fauteuil roulant.
C'est vrai.
Particulièrement insupportable.
C'est aussi donc l'officier de police, enfin l'inspecteur de police qui est une femme mais qui est joué par un homme. Il se trouve que c'est Charles Gauche, c'est le scénariste qui joue ce personnage. Donc on n'aura jamais aucune explication en fait. Voilà, il est comme ça. Voilà, c'est un travesti.
Non mais c'est intéressant quand même parce que c'est vrai, on peut le dire, on peut spoiler sans compter, mais. On va vite s'apercevoir que quand même tous les gens qui sont tués ont une particularité.
C'est vrai.
Voilà. Donc effectivement, certains sont gays, d'autres en fauteuil roulant, d'autres... et donc on peut tout à fait se dire ce commissaire de police qui quand même est assez évidemment un homme travesti en femme, il pourrait y passer aussi.
Tout à fait, parce
et
que
ben, en fait non.
Il pourrait être dans les non critères de normalité du tueur, puisque apparemment le tueur
c'est son obsession,
une obsession sur ce qu'il qualifie lui, ce qu'il considère lui comme normal. Donc du coup, on va croire qu'il tue un petit peu tout ce qui pourrait sortir de son cadre à lui. Donc on pense que l'inspecteur est sur la liste, et en fait, l'inspecteur ne sera jamais sur la liste.
Ouais.
En vrai. Donc ça surprend un petit peu. Qu'on peut dire le Psycho Bitch Party, le générique est sympathique aussi, puisque en fait c'est comme un film dans le traitement qui se prend pas du tout au sérieux.
Ah non, mais le générique est génial. Le générique et même l'intro, on se croirait dans un that 70s show, tu vois, c'est tout à fait cet esprit-là.
Rapidez un petit peu
ouais,
aussi.
Hein. Exactement, ouais, ouais. C'est vraiment ça, quoi. Et du coup, ça te positionne ce genre-là dans un autre univers. Qui est assez intéressant, la transposition est assez rigolote. Ouais.
Disons qu'on peut apprécier Psycho Bitch Party si on le prend dès le départ au second degré, en se disant voilà, c'est une parodie de plein de genres, c'est plus une parodie d'ailleurs qu'un film qui se prend au sérieux. Dans ce cadre-là, on peut l'apprécier. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est quand même. Il se passe pas grand-chose, ça parle quand même beaucoup, ça parle quand même beaucoup.
Les meurtres sont pas très intéressants, ce qui est dommage pour un slasher.
Non, ouais, c'est vrai. On voit des petits bouts de corps à droite, à gauche, mais les meurtres n'ont aucun intérêt. Voilà, après, les répliques, tout ça, c'est assez travaillé, il y a des choses assez marrantes là-dessus. Donc, ça cesse de regarder pour l'ambiance et l'effort sur la photographie et la période,
voilà,
qui est plutôt bien retranscrite, mais pas non,
puis ouais, puis il y a des trucs assez rigolos, effectivement. La mère qui dit à sa fille une invitation à une pyjama party, mais c'est en fait une invitation à avoir des relations sexuelles. Alors que souvent, quand même, à cette époque-là, les pyjama parties, c'était quand même entre filles ou entre garçons.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mais bon, t'as justement les surfeurs gays qui, à un moment, commencent à se chamailler, puis finissent carrément par lutter dans le sable, torse nu,
oui,
avec un autre
voilà.
mec qui les arrose d'huile.
Voilà.
Enfin, c'était
voilà.
assez drôle.
Là, on sent qu'il y a un fantasme de l'auteur, effectivement, et qu'on verse dans un autre genre. Voilà, c'est pas du tout... Faut pas espérer voir un slasher quand on voit Psycho Bitch Party. On est assez loin aussi, le titre est très menteur aussi parce que c'est pas très psycho. Alors certes, ça se passe sur une beach.
Il y a une partie.
Mais voilà, elle est quand même très sage, la partie en question. Donc,
la fille est quand même un peu psycho puisque.
Ouais, elle est un peu psycho quand même. Elle est un peu psycho.
Elle a un lourd passif et des problèmes psychologiques un peu
avérés. Hein. Pendant tout le film, on va nous faire croire que c'est elle le tueur.
Oui.
Évidemment, on peut s'y attendre, c'est assez mal amené aussi. C'est pas elle. Et puis du coup, alors le tueur, c'est qui? Bah, en fait, c'est le good guy de tout le film, quoi.
Ouais,
c'est le gars sympathique, le frangin qui est là depuis le début, voilà, avec sa bonne gueule et ses lunettes. Et bon, évidemment, c'est lui, le tueur. Alors, quelles sont ses motivations? Tueur. En fait, on apprendra. Alors moi, je l'ai vu en version espagnole, donc je vais essayer de vous
moi aussi
vous expliquer tout ça, puisque je suis parfaitement bilingue espagnol. comme vous le savez. Donc en fait, le type a été élevé dans une famille d'après lui déviante, hein, avec un père qui était complètement malade, une mère qui avait des mœurs très très bizarres. Enfin bon, lui, il a été opprimé par cette famille. Il a une seule envie, c'est de se venger. Ouais. Et donc du coup, de se venger aussi de tous ceux qui sortaient un peu du cadre. Voilà, c'est
parce que ce sont ceux qui, quand il était petit, lui ont fait du mal. Donc il transpose forcément, voilà. Et il se dit tous ceux qui sont comme ça sont forcément des gens méchants.
Voilà. Et donc à la fin, ils montent tous les deux sur une affiche publicitaire, enfin elle, l'héroïne et lui. L'inspectrice de police, qui est donc un homme, arrive, elle lui tire dessus, il tombe, il meurt. Et puis là, Vlatipak, je dirais encore twist.
Retwist.
Retwist, double twist à Saint-Tropez. on peut le dire. Et là, elle se réveille sur un lit d'hôpital. Tout ça n'était qu'un rêve, en fait.
Oui, elle était dans le coma.
Voilà. Elle est dans un asile.
Ah oui, c'est vrai, pardon, mais excuse-moi, oui, t'as raison.
Et là, autour d'elle, les différentes personnes qui s'occupent d'elle sont ceux qu'elle imaginait dans son histoire, dans sa tête, et puis ils lui font un lavage de cerveau avec...
Ah, tu crois que c'était un autre type de lavage, quand même, je sais.
Non, j'aurais préféré pour elle, parce que là, manifestement, ils lui mettent les électrodes sur la tête, et il à la façon vol au-dessus d'un nid de coucou.
Ah oui, il reboot, ouais.
Et il reboot tout, et puis le film se termine comme ça. Ah. Voilà, donc on comprendra... Alors non, pas tout à fait, non, parce que triple twist, j'ai envie de te dire.
Ça se termine là où ça a commencé.
Oui, ça se termine là où ça a commencé. La boucle est bouclée parce qu'en fait, du coup, on s'aperçoit que cette scène dans l'asile est en fait diffusée sur l'écran d'un drive-in. Puisqu'au début du film, on a oublié de le dire, mais ils sont dans un drive-in, ils voient un mauvais film des années...
Comme nous, à la fin, en fait, on a vu un mauvais film.
D'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que le film qu'ils regardent au début dans le drive-in, c'est L'attaque de la femme de 50 mètres, qui est un classique de l'essai des années 50. Ils regardent ce film-là. Et donc, à la fin, du coup, on s'aperçoit que la scène qu'on a vue à l'asile est en fait dans un film, que ce film est regardé par des gamins qui sont dans un drive-in dans une voiture. Là, un couple, voyant le film, discute vite fait en disant « Ah là, ce qu'ils disent, oh, c'est qu'un film, voilà. » Et elle surgit de derrière la banquette arrière de la voiture et elle les tue à l'arme blanche. Incroyable.
Et ben c'est surtout qu'on du coup on est absolument incapable de dire qui a tué qui au final, et je crois qu'on s'en fout un peu.
C'est un film dans le film.
C'est
ça. En fait, on sait plus.
C'est au troisième film dans le film que ça m'a perdu, moi.
Voilà. Donc bon. Pas d'ambition autour de ce film, c'est pas complètement un navet, parce qu'il y a une ambition, enfin s'il y a quand même une ambition artistique.
Ouais, il y a des idées, voilà. Il y a des idées intéressantes, le mélange des genres en est une, c'est plutôt pas trop mal fait, voilà. Il y a un esprit qui souffle quand même, mais je pense que effectivement il faut le prendre au second degré et pas forcément comme un slasher pur jus.
Non,
quoi.
C'est clair, on est très très loin du slasher pur jus, et c'est bien pour ça qu'on l'a enterré dans notre rubrique ridicule. Mais on va quand même finir, et on garde le meilleur pour la fin.
De très très loin,
voilà,
le meilleur.
Avec, alors là, un pur nanar. On peut le dire, c'est vrai nanar, parce que il a les caractéristiques du nanar, c'est-à-dire que c'est un film qui tente de faire le job, mais qui passe complètement à côté du truc.
Ah mais remarquablement.
Remarquablement. Donc du coup, on passe quand même un beau moment regardant, tellement c'est quand même à côté de la plaque et un petit peu ridicule. J'ai nommé,
ah bah de toute façon dans le titre, déjà rien que moi sur le titre je signe tout de suite.
Exactement. Et donc ce titre en français, Aerobic Killer, ou connu aussi sous le nom de Aerobicide, voilà, je crois qu'on a tout dit. Voilà,
c'est splendide.
Voilà, donc Aerobic Killer, donc c'est un film de
David Prior.
David Prior, qui a réalisé quand même auparavant quelques films dont on ne se souviendra pas.
Non, voilà. C'est pas utile, hein, vraiment. Non. Mais c'est un peu comme les acteurs, en fait. Hein, les acteurs de ce film n'ont pas fait carrière, et je pense que ce film a fait beaucoup de mal à la carrière de ces acteurs.
Il a réalisé un film qui s'appelle Ultime Combat. Voilà, alors Ultime Combat, dans lequel, alors coïncidence, il fait jouer son frère David Prior, donc Ted Prior, pardon.
Et David Campbell, hein, qui joue dans ce film, et il joue aussi dans Ultime Combat.
Voilà, donc le type travaille en famille presque, et donc dans Aerobicide, en fait, il y a un beau gosse un petit peu dans l'histoire, et donc c'est le frère du réalisateur, et qui jouait dans Ultime Combat. On en reparlera par la suite. Ça, c'est Ted Prior. Et puis parmi les acteurs, il y a Marcia Kerr.
Ouais. Alors, qu'on a vu... Elle a un fait d'armes. Ouais, quand même. Fabuleux, quand même. C'est vrai. Elle a inscrit à son compteur un film mythique. Elle en a pas 36 des films. Hein. Elle doit en avoir 3 ou 4, hein, vraiment. Des titres, quand même. Hein. Savage Street, Les rues de l'enfer. Ouais,
les rues de l'enfer.
Hard Bodies. Mmh. Hein. Et The Night Stalker. Et surtout,
n'oublie pas celui-là.
Mais celui qu'on ne peut oublier, Maniac Cop.
Maniac Cop, dont on aurait presque pu parler d'ailleurs dans cet épisode.
Presque, ouais, c'est vrai.
C'est un slasher plutôt réussi avec un tueur masqué.
policier. Plutôt réussi, complètement débile, tu veux dire, ouais. Pas de ridicule qu'il aurait eu sa place.
Tout à fait, il aurait eu sa place dans cette rubrique. Il a marqué un petit peu son époque, on n'en parle pas aujourd'hui, mais parce qu'on a trouvé pire. Voilà. donc elle jouait aussi dans ce film-là. Alors, est-ce que tu peux nous faire le pitch de ce film,
bien sûr,
quand même, majuscule ?
Attends, enfin, bien sûr, je dis bien sûr, mais c'est quand même un défi à relever, hein, parce que regardez-le quand même, c'est un putain de porte-nawak du début à la fin, avec des répliques mais abracadabrantesques, vraiment, mais ça en devient extrêmement drôle, hein. Moi c'est le genre de film que j'adore, pour me détendre, il n'y a pas mieux que ça. Donc comment on peut résumer ça ? Eh ben, on a un mystérieux agresseur qui tue à la fois les employés et les abonnés d'une salle de sport. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais la question la plus importante que pose ce film n'est pas là. La question la plus importante que pose ce film est « Qui a le plus beau justaucorps ?»
Eh oui.
Est-ce que c'est Cindy ? Est-ce que c'est Mindy ? Est-ce que c'est Debbie ? Est-ce que c'est Joanie ? Ou est-ce que c'est Jérémy ? Eh bien, moi en tout cas, j'ai toujours dit que le sport était une pratique dangereuse, et vous allez voir que ce film va vous le prouver.
Et alors, dans Aerobic Killer, là où c'est quand même très très fort de la part du producteur, c'est que finalement ça surfe sur deux choses qui marchaient bien dans les années 80, c'est-à-dire le slasher d'une part et l'aerobic d'autre part, puisque nous sommes en pleine époque Véronique et Davina.
Et Jane Fonda.
Et Jane Fonda, bien sûr, à l'international. Donc l'aerobic ça cartonne, et le type se dit, tiens, si je mixais les deux, finalement, ce serait peut-être une bonne idée.
C'est
donc,
souvent là, hein, quand même, que tu vois des erreurs majeures. Parce que tu peux mixer des genres très différents. On a vu des extraterrestres au pays des cow-boys, etc. Mais il faut le faire avec un peu de talent, quoi. Et là, le talent est absent.
Voilà, on se demande un petit peu quelles substances ils ont consommées en écrivant le script. Mais c'est vrai que il y a quand même... Le film, il dure 1h20 à peu près. Il est quand même globalement rempli par des séquences d'aérobic. Alors, pour celui ou celle qui veulent se rincer l'œil...
Ah, c'est magique.
Parce que effectivement, juste au corps coloré, fluo des années 80, plastique assez assez sympathique, des scènes d'aérobic non-stop. De ce point de vue-là, de point de vue de l'amateur d'aérobic, je dirais le film est réussi.
Ou de cumuler dans un juste au corps. Moi, je vous livre ma limite. Hein. Elle est écrite là. Hein. Voilà, 47e minute. Hein, je suis officiellement en overdose de mecs musclés en Marcel et de meufs en body moulant moule boule.
Voilà.
47e minute.
En tenue fluo.
Pourtant, je suis dur au mal. Hein.
Sans oublier que là aussi, il y a une vraie approche au niveau de la musique dans ce film, puisque il cherche aussi à surfer sur un petit peu la pop des années 80, mais alors évidemment la pop bas du panier, mauvaise pop.
Pompé-dop, ouais.
Et donc, il y a des chansons, une chanson notamment, la chanson phare, qui revient plusieurs fois, qui est inaudible.
Elle est splendide, je pense qu'on se quittera avec elle.
Ouais, on se quittera avec elle tellement elle est magnifique. Ça vaut le coup, quoi. Voilà, alors après, qu'est-ce qui est remarquable dans Aerobic Killer, au-delà des scènes d'aerobic, c'est qu'il y a donc quand même une histoire de tuerie qui se passe dans ce club d'aerobic chez Randa. Voilà. Il y a des meurtres. Voilà, alors là aussi, pour se démarquer du genre, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire les scénaristes ? Ils se sont dit, bon, on va pas faire des meurtres à la machette parce que c'est trop classique, on va pas tuer au couteau parce que c'est trop classique aussi.
J'ai déjà vu.
On trouve un truc un petit peu plus original. Tiens, après tout, Jonathan, si on prenait une épingle à nourrice ?
Ouais.
Bon. Voilà. Et effectivement, donc du coup, ils prennent une épingle à nourrice pour tuer.
Oui, ils y vont à coups d'alter, avec un peu tout ce qui leur passe sous la main. Hein. Et t'as des mecs qui sont... Enfin, les mecs et les nanas, d'une manière générale, sont complètement décérébrés. Ça donne lieu à des dialogues qui sont ahurissant.
Oui.
Mais vraiment. Alors, j'ai,
je
d'ailleurs.
Citer, je pense. On va vous en passer un
qui est quand même fantastique. Où parce qu'il faut savoir qu'il y a une espèce de détective privé hein, qui débarque là-dedans, sous couverture, et dont le premier fait d'armes, c'est de s'engueuler avec sa boss et de se bastonner avec un des autres professeurs.
Il a le bourre-pif facile.
Ouais. Donc, bagarre musclée, hein, direct. Donc on vous dit, tenez par exemple la première rencontre entre lui et sa future patronne.
C'est beaucoup plus privé qu'Hollywood Boulevard où je vous prie de retourner.
Ah, c'est drôle, c'est vraiment drôle, mais vous comprenez pas là. Je commence à travailler ici aujourd'hui.
Pas question.
Bah, c'est une drôle de façon de démarrer une relation employeur-employé. Voilà, c'est votre associé, monsieur Erickson. Eh bien, il m'a engagé hier.
Quoi?
Ça vous semble un peu plus clair?
Oh oui, c'est lumineux.
Parfait. Par où j'attaque, je brûle d'envie de commencer.
Les toilettes des hommes, elles sont sales.
Et puis, on bascule sur un truc complètement irrationnel, des dialogues, mais foutraques. Je vous en livre un autre qui est quand même assez fantastique. Quand il va, donc c'est son premier jour, hein, on vous le rappelle. Mmh. Il vient d'arriver, donc il s'est engueulé avec sa bosse, il a mis une peignée à un mec, et derrière il est parti. Chez une nana.
Invité, tranquille.
Et donc voilà ce qu'il lui raconte.
Alors, tu vas à la salle depuis un petit bout de temps?
Oh, un peu plus d'un an, c'est tout.
Et qu'est-ce que tu sais de ce Jimmy Alec?
J'ai été assez conne pour sortir avec lui il y a quelque temps.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que ce mec, il est bizarre. Par exemple, tu vois, il aime bien tâcher les filles et leur faire des choses. Ah, d'accord, c'est sympa de faire des trucs un peu excitants, mais ce mec, c'est un vrai malade.
Tu connais son adresse, sûrement?
Pourquoi? T'as envie de te le faire?
Ah, mais on parle vraiment. Je pourrais faire un petit tour chez lui en fin de journée, c'est tout.
Je vais voir si je l'ai. De toute façon, je voulais aller me changer. Tu vas m'attendre ici? Je reviens tout de suite.
Vous voyez un peu le genre. C'est tout à fait le genre de film, et d'ailleurs... C'est dans le film, hein, où tu peux, par exemple, continuer à parler après d'avoir raccroché au téléphone. Hein. Tu es au téléphone, oui, tu raccroches et tu finis ta conversation après.
Oui, tant qu'à faire. Voilà. Parce que tu sais que le son continue son chemin, donc ça peut quand même arriver à ton interlocuteur. Je pense aussi que la part belle n'est pas réservée aux hommes hein, dans ce film des années 80, puisque alors on a vu beaucoup de films des années 80 où les femmes avaient un rôle quand même mineur. Là, les hommes sont quand même présentés uniquement comme des gros obsédés sexuels, alors notamment ceux qui sont dans les salles de sport.
Ah oui, clairement.
Puisque je cite une réplique quand même sympathique. L'un des personnages masculins essaie d'expliquer à sa comparse féminine à quoi sert sa combinaison et sa fermeture sur la combinaison. Et il dit, tu veux que je te montre à quoi sert ta fermeture? Donc on se dit bien forcément qu'il a une idée derrière la tête. Et c'est que ça, hein, c'est des gros lourdingues qui draguent à tout va. Alors j'aimerais qu'on revienne quand même sur le beau gosse de l'histoire que tu citais tout à l'heure. Donc le Ted Prior, le frère du réalisateur. Donc lui, détective privé, il arrive sur les lieux parce qu'il est en fait embauché par l'associé de la nana qui tient la salle. Et en fait, ce qui est marrant avec lui, c'est qu'au début, première scène pratiquement, grosse baston. Alors, le gars, il est intouchable, quoi. Il est surpuissant, il liquide son adversaire facile.
Tant coup de pierre tourné sauté. Ouais.
Mais lui,
des familles, hein.
Voilà, il maîtrise complet. Et tu te dis, ce gars, c'est le héros, voilà. Et puis au fil du film,
c'est vrai.
Plus les bastons progressent, plus il se fait défoncer. Et il finit par se faire renverser par une voiture.
Oui, c'est triste fin, vraiment.
Triste fin d'un type qui apparaissait quand même comme le sauveur du film. C'est dommage. Alors il y a une scène aussi très drôle, c'est qu'à un moment donné, il y a un type qui se fait écraser par ses haltères. Bon, donc il meurt. Mm-hmm. Puis il y en a un deuxième, je crois, qui meurt.
Dans la foulée.
Puis il y a un type qui arrive comme ça, qui voit les corps, il dit mince, qu'est-ce qui se passe? Et là, le beau gosse, le blond, il arrive. Il voit le gars près des corps. Il arrive et direct, il lui assène trois coups de tatane, truc un mayashi dans la tronche, coup de pierre tourné, tout ça. Et il étale le gars parce que considère que c'est lui le coupable. Mais alors,
bah oui,
voilà,
normal. Expéditif, quoi.
Expéditif, justice sauvage, quoi.
Ouais, ouais.
Et là, tu te dis, bon, lui, il maîtrise complet, c'est le héros du film. Eh ben non, en fait, gros twist, il va se faire tuer. Et puis plus le film va avancer, plus le gars, il va se faire étamer, quoi. C'est quand même très triste. Que dire d'autre? Tu me parles du.
Oui, quand même. Oui. Le tueur. Où est le tueur, quoi? Qui est le tueur?
Qui est le tueur?
Le tueur. Mais c'est. C'est Rhonda.
C'est Rhonda, la patronne.
Exactement.
Du club de sport. Et alors, pourquoi c'est Rhonda?
Parce que Rhonda, figurez-vous. On dirait pas comme ça à la voir dans son joli justaucorps moulant. Eh ben, elle est défigurée et brûlée au 8e degré parce qu'elle a eu un accident de solarium.
Et voilà, ouais. Une séance d'UV qui a mal tourné.
Très mal tournée. Et du coup, eh bien, elle est quand même restée. C'est quand même un peu bizarre, hein, parce qu'en général, quand t'as un trauma comme ça, enfin, mais bon, elle a préféré rester patronne de son club de sport, alors qu'elle avait développé une aversion pour son corps, et que du coup, elle jalousait tous ces hommes et ces femmes bien bâtis et bien roulés, et alors qu'elle devait cacher son corps sous son body. Et du coup, eh bien, pour se venger, elle bute ses clients.
Et voilà, et elle bute ses clients un par un. Et donc le film veut nous faire croire que peut-être c'est un membre du club amoureux de la patronne en question qui tue tout le monde. Alors c'est vrai que le mec est un petit peu louche, mais pendant longtemps on l'intrigue et on pense que c'est lui évidemment le tueur. En fait c'est pas lui du tout, puisque c'est elle. Et elle finira d'ailleurs par l'assassiner.
Alors qu'il a tué pour la protéger.
Exactement. Donc voilà, aucune reconnaissance.
Non.
Voilà,
bah, d'ailleurs, on vous fait écouter l'extrait. Hein, on vous montre comment ça se passe chez Rhonda.
Pourquoi as-tu tué Dawson ?
Parce que je t'aime. Je ne voulais pas qu'il t'arrête.
Voilà, donc Rhonda, elle fait pas les choses à moitié. Et puis alors, il y a un truc, moi, qui m'a fait beaucoup rire. C'est que dans ce club de sport, il y a au moins, je sais pas, il y a 5, 6, 6 morts, peut-être une petite dizaine. Mais alors, ils ferment pas le club.
Non, non, ça gêne personne.
Ça continue, on fait les séances d'aérobic.
Mais comme ça, on récupère des casiers, tout ça, c'est mieux.
Bah ouais, mais ouais, parce que tranquille. Moi, j'ai envie de te dire, the show must go on.
Voilà. Oui,
et donc, et c'est exactement ça, ça continue, on fait les clubs, et puis c'est pas grave, on continue de faire ces séances d'aérobic. Même si, quand même, il y a un inspecteur de police, un fin limier, voilà, un inspecteur de première classe, qui investigue.
Un fin limier un peu désabusé sur son rôle, hein, quand même.
Mais il est là, c'est-à-dire qu'il y a des crimes qui se passent quand même à chaque fois qu'il est là, il s'en rend pas compte, mais quand même, il enquête férocement. C'est un inspecteur qui a envie d'aller au bout de cette enquête. Voilà. Et donc, il ira au bout de cette enquête, mais pas complètement, puisque là aussi, c'est une surprise du scénario.
Il se prendra un coup de pelle juste avant.
Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin ? C'est que lui, il a parfaitement compris, en fait, que même si le type qu'on pense coupable a été assassiné par la Rhonda en question, la patronne du club, lui, il sait très bien que la vraie coupable, c'est elle. Alors, il lui propose une petite balade en forêt. Elle accepte, naïve qu'elle est. Puis, il lui dit qu'il lui raconte une histoire. Il lui dit, voilà, moi, mon père, il était flic, il s'est consacré à la justice toute sa vie. Et puis, un jour, il a été écœuré par une affaire, il s'est mis à faire justice lui-même. Et bon, qu'on comprend que lui, en fait, il est en train de lui dire qu'il a compris que c'était elle la coupable et que il va faire justice lui-même, et que là, en fait, il s'apprête à la tuer et à l'enterrer dans la forêt où il se trouve. Quoi.
Et qu'est-ce qu'elle lui répond, elle ? Vous n'avez pas le droit de me tuer.
Et non, il n'a pas le droit de la tuer. Alors, en fait, elle, en revanche, elle a le droit de lui foutre un coup de pelle monumental en pleine tronche, et
ça,
le gars...
Ça lui apprendra. Et c'est un classique aussi, hein. Il y a un moment où, quand le méchant fait un monologue d'une demi-heure, tu peux être sûr qu'à un moment ou à un autre, il va s'en prendre une dans la gueule.
Et voilà.
Il devrait le savoir.
Et puis, donc, c'est ce qui se passe, parce qu'il s'en prend une bonne dans la gueule, et il est tué sur le coup. Voilà. Et donc, c'est terminé. C'est terminé du fin limier. C'est terminé du policier number one.
Et Rhonda peut reprendre ses activités et continuer à recruter pour remplir son cheptel de futurs morts.
Voilà. Et donc, le club ne ferme pas. Elle reprend son activité. Et c'est finalement elle qui gagne à la fin. C'est incroyable. Donc voilà. Donc, Aerobic Killer ou Aerobicide, c'est un nanar, mais alors de premier ordre. On dit bien un nanar parce que c'est un film qui a quand même eu envie de faire bien, mais qui rate tout. Voilà, le scénario
qui nous fait bien marrer.
Ça nous fait bien marrer, c'est mal joué, c'est mal doublé, les meurtres sont ridicules, le tueur tue avec une épingle à nourrice, enfin voilà, tout est raté. Donc ça vaut le coup de le regarder pour passer un bon moment, on peut le dire. Oui. Et puis voilà, peut-être que le club est encore ouvert. Alors si vous voulez vous inscrire chez Rhonda Workout,
on vous donnera l'adresse, on va regarder, on va se renseigner.
N'hésitez pas. Voilà, écoute, je crois que c'est la fin de cet épisode consacré au slasher. slasher, tout bon slasher, slashant, slashé est un bon slasher. Je crois que j'ai réussi à le dire.
À peu près.
À peu près. Voilà, on aura peut-être l'occasion de faire un autre épisode sur les néo-slashers. Comme
ouais, tout à l'heure. Fait, il en reste quelques-uns. De toute façon, le genre est vaste, hein. Donc c'est vrai qu'on aura encore l'occasion, à mon avis, d'y revenir. Mais bon, on a tellement d'autres genres tellement à explorer d'autres genres avant. À
explorer ensemble. Mais tous les films dont on parle, on peut le rappeler, sont quand même globalement disponibles, soit sur Netflix, soit sur YouTube.
Tu fais bien de le dire.
Soit encore sur Amazon Prime, pour ceux qui l'ont.
Parce que c'est quelque chose auquel on tient, c'est-à-dire que les films qu'on chronique puissent quand même être faciles à trouver et faciles à regarder, parce que sinon c'est quand même moins intéressant. Si jamais ça vous intéresse et que vous ne pouvez pas mettre la main dessus, c'est hyper frustrant, quoi.
Exactement. Et puis on vous encourage bien sûr à aller déposer vos commentaires sur notre compte Instagram Le Bon, Le Culte et Le Navrant, sur lequel on met quelques infos complémentaires, sur lequel vous pouvez éventuellement nous contacter, nous donner des idées d'autres thèmes si vous le souhaitez pour les prochains podcasts. Voilà. Chers auditeurs, à bientôt.
Et puis on se quitte sur ce fabuleux générique d'Aerobic Killer. C'est quand même, on fait un putain de grand écart, hein. On a ouvert avec Halloween et on termine avec ça. On espère que vous ne nous en voudrez pas et on vous dit à très bientôt.
À très bientôt. You don't know it's yours.